OK, oui, 10h01, on s'installe ensemble pour les deux prochaines heures à Boulevard 102-1-88-971-1021. C'est le numéro pour me rejoindre en studio par texto. 88-780-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en studio par téléphone. Il y a toujours le blvd.fm pour écouter en direct avec la web radio. Il y a le Twitch, blvd-fm, pour me regarder tout seul en studio, vous parler. Avec mon beau hoodie de Machine Gun Kelly, MGK, qui va annoncer d'ailleurs sa prochaine tournée le 8 septembre. Fait que ça, c'est dans une semaine à peine, même moins qu'une semaine. Fait que là, vous allez pouvoir... Souvent, ça sort vers 10h, c'est ça qui est cool. Fait que là, le show, le point de max va commencer. Puis soit je vais être bien excité parce que MGK passe à Québec. Québec, je serais surpris. Montréal, peut-être. Ou soit vous allez me voir en beau joie le vert parce que Machine Gun Kelly passe par-dessus le Québec puis s'en va juste à Toronto ou à Boston puis il va falloir que je fasse de la route pour aller le voir. Bref, ça, ce sera la semaine prochaine. En attendant, on est mercredi le 3 septembre et j'ai un pas pire show, j'ai l'impression, à vous offrir. Bon, il y a les rendez-vous habituels. Audrey Pinchot qui sera là à 11h avec le segment Open Mic. Pascal CV passera nous voir un petit peu plus tard également, plus vers la fin du show, là, vers 11h35, 11h40. Et avec elle, on va parler de la grosse nouvelle qui est sortie dans les dernières heures, puis ça va prendre beaucoup de place. Ce matin, la coroner Jeanne Kamel qui présente ses conclusions par rapport au décès de la fillette de Granby, souvenons-nous, tragédie qui était survenue en 2019, fillette qui était décédée dans des circonstances absolument atroces. C'est un rapport de 26 pages qui est présenté ce matin par la coroner Jeanne Kamel, où on vient déplorer des lacunes importantes du système de protection de la jeunesse qui ont mené donc à la mort de la fillette de Granby. On nous décrit un fonctionnement en silo où les besoins de l'enfant ont été ignorés malgré des signaux d'alarme qui ont été nombreux. Il y a eu des signalements à la DPJ, on dénonçait des abus physiques, de mauvais traitements, de la négligence, et malgré ça, ben, ces signalements-là n'étaient pas retenus, n'étaient pas nécessairement pris au sérieux. 24 fois, la police est intervenue au domicile entre 2012 et 2019. L'école avait constaté que la fillette avait toujours faim. Il y avait des confidences troublantes aussi par rapport à des punitions abusives. Et parmi les constats qu'on fait dans le rapport, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est une rencontre, une entrevue filmée, en fait, entre les policiers et la fillette. C'était en novembre 2018. Entrevue qui a duré quelques minutes à peine. 8 minutes. Parce que l'enfant répondait pas vraiment aux questions puis a fini par dire « Ce qui se passe à la maison doit rester à la maison. » Un enfant qui dit ça en entrevue avec la police, on s'entend, a de bonnes chances d'avoir entendu ça ailleurs. Il y a des bonnes chances qu'avant l'entrevue avec la police, il y a eu un genre de briefing. C'est un peu ce qui ressort là, dans le document. Nécessairement, elle aurait reçu des instructions de ne rien dire, la fillette de Granby, avant cette entrevue-là filmée avec la police, où elle a pas voulu parler de ce qui se passait à la maison, pas voulu parler de sa relation avec son père, avec sa belle-mère. Et selon Jeanne Kamel, la coroner, c'est une entrevue qui amène de nombreux questionnements fondamentaux. Est-ce que réellement la meilleure manière de venir sécuriser un enfant, ben, c'est de la rencontrer dans un poste de police. On s'entend, c'est pas à place qui est où tu te sens dans ton salon et deux pieds sur le pouf. Là. C'est intimidant, ça peut être menaçant. Et parmi les nombreuses recommandations, ben, évidemment, il y en a beaucoup qui vont dans le même sens. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que il n'y a pas un coupable. Puis, ce qui est mentionné par la coroner, c'est que il n'y a personne qui a nécessairement agi de mauvaise foi dans ce dossier-là qui est excessivement préoccupant. Mais il y a bien du monde qui n'a pas vraiment fait sa job ou le système n'a pas bien fait sa job parce que chacun travaillait dans son silo. Puis on peut lire la phrase suivante, oubliant malheureusement l'essentiel, l'enfant. Le drame ne relève pas uniquement du réseau hospitalier, de la DPJ ou du milieu scolaire. C'est entre autres un manque de communication entre tous ces milieux-là qui ont malheureusement mené à la tragédie qu'on connaît en 2019. Il pose la question, la coroner, quand un enfant de 7 ans exprime clairement une réticence à parler, est-ce qu'on ne devrait pas faire preuve d'une prudence accrue, surtout que l'historique familial était déjà bien documenté? Il y avait un historique, je vous l'ai fait au début de l'émission il y a quelques instants à peine, de maintenir la fillette avec sa belle-mère le temps d'être vue par les enquêteurs. C'était pas un lourd fardeau à lui faire porter. Est-ce qu'il faut vraiment s'étonner qu'elle n'ait pas voulu parler? Je parle des recommandations, il y en a 12. La coroner Jeanne Kamel, qui d'abord a ses recommandations pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. On n'ira pas dans tous les détails, mais je vous lis les grandes lignes. On veut que le ministère soutienne et s'assure de donner les leviers nécessaires à la directrice nationale de la protection de la jeunesse pour qu'on puisse avoir une communication régulière, transparente, que le monde se jase. Ça revient un peu à ça. À un certain point. On veut aussi, puis ça c'est intéressant, mettre en place un registre unique. C'est la deuxième recommandation où on viendrait recenser tous les cas pris en charge par les directions de la protection de la jeunesse dans la province. Et là, on donne l'exemple du dossier de santé numérique. Fait qu'on aurait ça, c'est cette base de données-là où on aurait les cas pris en charge par les directions de la protection de la jeunesse, puis ce serait plus compliqué d'en échapper. Il y en a qui passent dans le crack du divan. Troisième recommandation, on veut que le ministère consolide les services psychosociaux de première ligne. On parle notamment d'augmentation des enveloppes budgétaires, fait que financer davantage ces services-là de première ligne. Quatrième recommandation, on veut que le ministère adapte les services de première ligne aux besoins des populations vulnérables, fait qu'on est encore dans le même sens. On veut rendre obligatoire l'application du plan de service individualisé pour tout enfant pris en charge par la DPJ dès le début de la prise en charge, fait que d'avoir un protocole qui est bien respecté. Ensuite, il y a des recommandations qui vont au ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec le directeur des poursuites criminelles et pénales et le ministère de la Sécurité publique. On veut, entre autres, modifier le guide de pratique de l'entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, d'abus physiques ou de négligence grave. Et entre autres, pour que la procédure soit plus systématiquement déclenchée selon des critères qui sont établis. On veut que ces critères-là soient clairs, soient établis, mais on veut que l'intervention soit déclenchée quand on remplit ces critères-là. Puis on veut que les policiers puissent aussi consulter là, les autres partenaires de l'entente multisectorielle. Ça, c'est pour la septième recommandation. Après ça, on tombe plus dans les CIS, les CIUS. On parle du Collège des médecins aussi, de Santé Québec. Il y a des recommandations pour eux également. Là. On veut que les médecins soient formés à leur obligation de faire un signalement dès qu'il y a un soupçon que la sécurité et le développement d'un enfant est compromis. Fait que si un médecin voit un kid puis se dit « Mais semble qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas », ben garde pas ça pour toi. Il y a un signalement qui doit être fait, fait que ça fait aussi partie des recommandations. Neuvième, on veut favoriser la présence des intervenants de la santé et des services sociaux au sein des écoles. Ça, je pense que c'est pas quelque chose qui va jeter bien du monde à terre, là. On veut prendre les mesures nécessaires pour éviter le bris de services éducatifs d'un enfant de niveau primaire et secondaire. Ensuite, pour ce qui est du ministère de la Sécurité publique, rapidement, on veut rendre obligatoire une formation pour les superviseurs d'enquête et déployer tous les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Donc, la coroner Jeanne Kamel, qui ce matin rendait public un gros document de 26 pages où on vient dire ça a été quoi les lacunes dans la gestion du dossier de la fillette de Granby qui est tragiquement décédée en 2019 après, entre autres, 24 interventions de la police à son domicile entre 2012 et 2019. Ça, c'est un des faits troublants. Je vous ai parlé de l'entrevue filmée qui a duré 8 minutes avec la petite fille qui dit « Ouais, ben ce qui se passe à la maison reste à la maison. » Puis après ça, on n'a pas jugé nécessaire de fouiller bien plus loin. C'est assez déplorable. Il y a des réactions. N'hésitez pas d'ailleurs au 88-971-1021. N'hésitez jamais. C'est toujours le fun d'avoir de vos réactions. Il y a Julie, entre autres, puis c'en est une qui revient un peu, puis c'est dommage parce que ça montre un peu le cynisme qui peut régner.
Je lui dis « Aucune recommandation sera mise en place, c'est que du blabla gouvernemental. » Puis c'est dommage, mais clairement, il y a bien du monde qui pense comme Julie. C'est pas le premier rapport de coroner qu'on a par rapport à n'importe quoi, en fait. Il y a souvent des rapports de coroner qui arrivent puis qui nous amènent des éléments assez troublants. Puis on se ramasse une couple d'années après, puis là, il arrive quelque chose, puis là, on se remet ça en mémoire, puis on se dit « Ouais, mais ça, quand c'était sorti, là, comment ça, on n'a pas mis ça en place? » Puis la réponse, c'est « Ouais, c'est pas, hein, mais... » Fait qu'est-ce que c'est vraiment juste du blabla gouvernemental? On espère que non. Il y aura conférence de presse là, dans les prochaines dizaines de minutes où on va répondre aux questions et bien expliquer ce rapport de 26 pages. Dans les prochaines minutes, dans le Point de Max à Boulevard, j'ai décidé d'essayer quelque chose aujourd'hui. C'est la première semaine, fait qu'on va essayer des choses ensemble. Le maire de Québec, Bruno Marchand, était de passage dans Gravel dans le retour hier. C'est une entrevue qui a duré quoi, un 20-25 minutes à peu près. Le maire qui était un peu pressé là, de ce que j'ai compris hier. Il y a beaucoup de questions qui venaient des auditeurs qui ont malheureusement pas pu être posées parce que le temps pressait. Mais les sujets principaux ont été abordés avec le maire de Québec, Bruno Marchand. Et je voulais vous faire entendre, je sais pas si je peux appeler ça des faits saillants, mais j'ai essayé de rapper ça, cette entrevue-là de 22-25 minutes, en 12 minutes. Fait que c'est un 12 minutes des faits saillants de l'entrevue de Gravel dans le retour avec Bruno Marchand. Puis je veux, parmi les trucs que je veux essayer avec ça, 88-971-101, je veux vos réactions en direct. Je veux qu'on revienne après ça sur vos réactions sur l'entrevue du maire de Québec, Bruno Marchand, que je lance à l'instant. Puis on se reparle dans 12 minutes, ben pile.
Dans plusieurs entrevues, c'est de quel élan vous okay, parlez au juste?
OK, mais quand on regarde, mettons l'indice des prix. Là, tout le monde paye plus cher ses produits.
Oui.
C'est pas à Québec, là, c'est au Québec, c'est au Canada, c'est en Amérique du Nord, c'est au monde. À Québec, on a la moins grosse croissance de taxes de toutes les grandes villes du Québec. En dessous de l'inflation. Fait que oui, c'est 400$ que ça représente par rapport à l'inflation que les gens ont gardé dans leur poche. 400$, là, les gens, ils sont pas passés d'un état à un autre. C'est 400$, ça va. Mais il reste quand même que le coût de la vie, c'est vrai qu'il y a des indices de prix à l'épicerie ou autre, à l'essence ou les autos, ça coûte plus cher. Alors, c'est vrai que les gens le sentent. À Québec, on est choyé. On a plusieurs activités gratuites, les bases de plein air, certaines activités, nos PVE, nos programmes vacances été pour les familles, là, ça coûte moitié moins cher qu'à Lévis, là, pour on a plus de place que toutes les grandes villes du Québec. Fait que c'est vrai que l'État global, quand on pense à crise climatique, géopolitique mondiale, crise économique avec les Américains, on vit aussi ce constat-là.
Fait que on s'en tire mieux. Dans le fond, ce que vous dites, c'est les problèmes que vit Québec, c'est pas de ma faute à moi.
Non, ce que je dis, c'est qu'on doit les travailler. Ce que je dis, c'est qu'on s'en tire mieux qu'ailleurs. Quand Moody's dit notre économie va bien par rapport aux autres villes du monde, on est chanceux.
Celle-là est revenue sous plusieurs formes, là, fait que je résume un peu. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour améliorer le sort des automobilistes qui transigent à Québec et qui vont rester des automobilistes avec ou sans tramway puis qui ne sont pas intéressés par le transport en commun?
Bien, je leur dis, ils ont le droit, puis ils ont raison, puis je les comprends. Puis c'est pour ça qu'on fait une multitude d'offres de transport. Présentement, là, quelqu'un qui dit, hey, c'est grave, il y a de la congestion, mais j'ai pas de solution à te proposer. En fait, ce qu'il te dit, c'est que tu vas rester pris dans la congestion. Pire que ça, ça va empirer d'une année à l'autre parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui habitent Québec, il y a de plus en plus de gens qui veulent se déplacer. La personne qui est dans son char, qui aime sa voiture, là, change pas. Change pas. J'ai pas de leçon à te donner. Là. Moi, je suis qui pour te dire que tu devrais pas faire ça ou tu devrais prendre un autre moyen? Ça t'appartient. Ce que je te dis, par contre, c'est que contrairement à bien d'autres, qui te disent « Hey, c'est l'enfer », moi, j'amène des solutions pour qu'il y en ait moins de voitures devant toi.
Mais l'automobiliste qui voit pousser des pistes cyclables, qui perd des voies en pleine ville, qui est pogné d'un travaux, il a l'impression que tout est fait pour les autres, okay, mais pas pour lui.
OK, mais les travaux, c'est aussi pour les automobilistes. Là. Si on ne fait pas de travaux, si on a annoncé les boulevards 2.0, on va améliorer 20 boulevards à Québec, on veut les rendre plus fluides pour les automobilistes, si tu ne fais pas de travaux, bien, présentement, tu pars d'un état de lieu où il y a de la congestion puis où parfois c'est pénible de circuler. Quand on dit, là, les gens... Prends juste un vélo, là. Cette année, c'est 2 millions de déplacements. C'est pas 2 millions de déplacements qui remplacent l'auto, là. Mais c'est 23 % qui remplacent l'auto. Donc, ça veut dire que c'est 460 000 déplacements sur 6 mois ou c'est des trajets en auto qui n'ont pas été faits. La personne qui est dans son char, là, je ne dis pas, hey, tu devrais prendre un vélo, c'est bon pour toi. Non, non, mm-hmm. je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Cependant, quand il y a quelqu'un qui prend son vélo au lieu de prendre son auto, c'est une auto de moins devant toi. Et ça, ça fait une différence sur la fluidité. On ne va pas attendre d'être Montréal, puis que ça soit encore plus congestionné, puis qu'il y a du monde qui dise « Merde, il faudrait trouver des solutions. » Puis c'est pas vrai qu'avec le gouvernement du Québec, présentement, l'état des finances, qu'on va agrandir les autoroutes, là, on ne verra pas ça dans nos prochaines années. Ils n'en ont pas d'argent. Mais pour faire en sorte de passer plus de monde sur la capitale, faire en sorte de passer plus de monde sur le boulevard des Chutes, sur l'Ormière, peu importe le boulevard que vous prenez, puis 12 à Val-Bélair, puis 11, puis 10, puis peu importe où là, dans la ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte qu'il y ait du monde qui se déplace de différentes façons.
Mais l'automobiliste, quand il entend parler de vélo, puis de tramway, puis de transport en commun constamment, ben, il a l'impression qu'on en fait beaucoup pour les autres, puis que lui, il est laissé de côté, puis il y a une partie de la frustration, je pense, qui vient de ça. C'est-tu un problème de communication ou c'est autre chose?
Moi, je pense pas que c'est un problème de communication. Prends ce qu'on a fait avec Google pour rendre plus fluides les intersections, où on améliore avec l'intelligence artificielle les intersections. C'est 12 % du temps gagné à certaines intersections. Puis ça va jusqu'à 20, 25, dépendamment des intersections. C'est important. Mais quand tu t'annonces cette nouvelle-là positive, ça fait moins de bruit. Là. Je ne blâme pas les médias, ça fait moins de bruit. C'est une nouvelle positive, les gens sont contents. Quand tu parles du tramway qui est très polarisant, tu en parles, puis on en parle longtemps. Le tramway, il va être bon aussi pour les automobilistes. Mettre plus de monde dans un transport collectif, c'est moins de monde sur la route, puis c'est du monde qui, eux, sont en auto, peuvent se déplacer. Il n'y a pas de recette magique. Là. Sam Hamad, quand il parle de son SRB, l'avez-vous vu la vidéo sur Charest, il enlève des voix, là? Il ne l'a pas dit. Il ne s'est pas vanté de ça. Mais en enlevant des voix, il est-tu contre l'auto? Est-ce qu'on peut dire que Sam Hamad est contre l'auto parce qu'il enlève des voix sur Charest? Mais non, lui aussi, il faut qu'il fasse passer plus de monde. Alors moi, je ne suis pas contre l'auto. L'auto, c'est un bon moyen de se déplacer. C'est aux familles, c'est aux gens de décider c'est quoi le meilleur moyen.
Vous avez mentionné le tramway, question qui est beaucoup revenue sur nos réseaux sociaux puis sur le texto. Pour vous, M. le maire, pourquoi vous ne voulez pas organiser un référendum sur le tramway avec une question qui est claire, précise, sans tenter d'influencer le résultat? Ça clôturerait le dossier une fois pour toutes.
Jean Charest a dit ce matin, ce midi, dans une conférence ici à Québec, là, il faut repenser notre économie pour aller plus vite. Jean Charest appelle les entrepreneurs et les politiciens à revoir le modèle économique pour mettre des projets en place plus rapidement et aider notre économie. Le tramway, là, c'est un projet économique. C'est 7,6 milliards d'argent public, c'est 4,5 milliards d'argent privé, dont on voit déjà les retombées, là, sont déjà investis dans des entreprises d'ici. Là. Ça, c'est une façon de nourrir notre économie dans un climat super compliqué en économie. Nos entreprises, il y en a qui en arrachent. Le chômage des jeunes augmente comme il n'a jamais augmenté parce que les actions de Trump ont des effets. Ça coûte plus cher. Il y a des choses qui coûtent plus cher à cause des tarifs et des contre-tarifs. Mais ce que Jean Charest dit, ce que Mark Carney dit, puis ils ne sont pas à même enseigne, ils ne sont même pas dans le même parti, c'est qu'il faut accélérer nos projets de cette ampleur-là parce qu'ils améliorent notre économie, ils donnent de l'air à nos entreprises.
Fait que vous avez l'impression qu'un référendum ne serait pas gagnant pour le tramway.
Je ne sais pas ce qui serait gagnant ou pas, mais on retourne en arrière. On retourne en arrière parce que là, on prend une année, deux années à dire on met sur pause. On dit à nos entreprises, vous n'aurez plus d'argent pour construire le tramway, on va attendre que ce référendum-là ait lieu. Alors qu'il y a eu des élections qui ont confirmé le fait qu'on avait des partis pro-tramway. Mais les gens qui n'aiment pas le tramway comme moyen de transport, là, vous avez le droit, je vous comprends. Mais il y a deux tiers des citoyens de Québec qui disent « Arrêtons d'en parler et avançons. » La Ville de Québec ne peut pas juste être un serpent à échelle où on revient toujours à la case départ et on recommence à zéro. Et là, on a des ténors économiques dans un contexte actuel qui disent « De grâce, allez de l'avant avec les grands projets, ça va nous aider, ça va nous donner de l'air, ça va nous donner du gaz, ça va nous donner des emplois. » Qu'est-ce qu'on fait, nous? On décide de revenir en arrière et de retourner le chèque?
Le bruit des parents et des joueurs à l'Académie Saint-Louis, non. On est à quelques jours d'un référendum qui sera perdu par l'école. Comment
je
ça se fait pour régler ça?
Je sais pas si sera perdu. On ne le concède pas.
Statistiquement, si on se fie à ceux qui ont le droit de vote, ils font partie des immeubles avec le syndicat qui est le plus vocal, puis on se rend compte que les informations qui sont données ne sont pas nécessairement les bonnes pour les gens qui vont aller voter. On peut se questionner sur la légitimité d'un processus comme celui-là.
Bien, c'est ça. Alors, si vous savez, là, on est tous d'accord que l'Académie de Saint-Louis devrait pouvoir jouer. Mais quand on va contre un référendum, les gens disent « le maire n'écoute pas ». C'est ça que les citoyens disent. C'est facile de dire.
Par contre, il y a d'autres mécanismes que la Ville peut utiliser. Mais vous l'avez déjà dit que des fois, des règlements qui sont dépassés, il faut les changer.
Oui, mais là, on ne pouvait pas se soustraire. On ne peut pas se soustraire à nos propres règlements.
Vous avez une solution pour après le référendum?
On va s'en reparler après. Là, présentement, ce que je demande, c'est aux citoyens de, ces copropriétés-là de réfléchir. Moi, je pense qu'il y a un petit noyau qui noyote le reste. Là. Il y a des jeunes qui veulent jouer. quelques fois par année. On n'est pas le soir, on n'est pas la nuit, on n'est pas en train de mettre un bar à côté de leur résidence. Là. Ça ne transforme pas ta vie en catastrophe, en enfer. Là.
Pour 10 jours dans une année.
Exact. Hein? On peut-tu avoir un peu de sens commun? On peut-tu être capable d'avoir de l'ouverture? J'espère qu'on va le gagner, le référendum, c'est dimanche prochain.
Fix.
Jeff est là, Jeff a fait, Jeff Gosselin.
Jeff Gosselin, oui.
Il est allé faire des portes. On a fait les portes de la copropriété. On va continuer de le faire, on continue de se battre. Et on demande à ces gens-là qui ont le droit de vote. C'est pas nous autres qui déterminons qui a le droit de vote. Hein. C'est déjà déterminé oui. au préalable d'avoir du sens commun. Puis après ça, on verra ce qu'on fait.
Fait que c'était impossible de court-circuiter non. ce processus-là. Il devait se rendre jusqu'au référendum.
Ouais. À partir du moment où il a demandé, oui.
En même temps.
À partir du moment, il y en a un autre dans Charlebourg en passant. Il y en a un autre référendum dans Charlebourg présentement sur un autre projet, puis qui risque peut-être d'être perdu. J'espère que non. Mais à un moment donné, c'est ça aussi qui arrive. Quand on est dans le pas dans ma cour, puis là, on est clairement dans du pas dans ma cour, bien, il y a des petits groupes de citoyens qui peuvent empêcher la ville d'avoir extraordinairement des belles choses qui se passent. Moi, j'aime pas ça.
En même temps, un maire qui arrive en début de campagne électorale puis qui réussit à trouver une solution à ce problème-là après l'avoir étiré alors que le conseiller du coin n'est pas quelqu'un de son équipe, on jase, là. Ça va rapporter, ça, politiquement.
Non, ça n'a jamais été pensé de même. On ne fait, fait pas ça avec une école avec des jeunes. Là.
J'espère que non.
Mais non. Non, Denis, là-dessus, il n'y a rien qu'on fait, qu'on prend les gens en otage pour faire de la politique. Là. Puis que la conseillère soit de mon équipe ou pas, ça n'a pas d'importance.
OK. Il y a des gens qui veulent vous entendre là-dessus, puis je ne suis pas surpris. Quand vous boycottez un média, quel qu'il soit, vous n'avez pas l'impression de donner raison à vos détracteurs puis à vos critiques et de tourner le dos à une partie des citoyens?
Mais c'est pas le but. Je me souviens quand on s'était dit on se donne ça rendez-vous au mois. Je me souviens, Denis, tu avais les yeux grandement en disant vas-tu le faire?
Mm-hmm.
Bon, je l'ai fait.
La politique m'a appris à être cynique face à ce genre d'engagement-là. Oui.
Avoue que je l'ai fait.
Oui, absolument.
Je suis venu ici, puis vous m'avez posé des questions tough. Puis
ouais, on vous le donne souvent en ondes.
Oui, puis c'était pas béni, oui. Puis des fois, ça allait bien, des fois, ça allait mal. Des fois, vous étiez très critique. Puis c'est votre job. Je refuserai jamais les demandes médias, évidemment, en fonction de la disponibilité, mais j'ai toujours dit oui, puis je crois à l'importance des médias sous toutes leurs formes. Mais si je vais dans un média où c'est pas équitable, où une fois que je suis parti, on déforme les faits, on déforme la vérité, puis on ne donne pas un traitement équitable, ça ne donne rien. Alors, c'est pas en respect ou en manque de respect pour les auditeurs. Je respecte leurs auditeurs. Si je ne suis pas dans un contexte d'un traitement équitable, je ne parle pas d'un traitement favorable. Je demande juste un traitement équitable. Puis je trouve que le plus bel exemple, c'est ici. Vous m'avez toujours offert un traitement équitable. Vous n'êtes pas toujours d'accord, vous êtes critique. Parfois, vous donnez des bons coups, parfois, vous donnez des mauvais coups. C'est parfait. Mais c'est la preuve qu'on peut faire ça.
En terminant, M. Marchand, vous avez accusé sa mamade de faire du maraudage. De quoi aviez-vous le plus peur? De perdre des gens importants de votre équipe ou qu'ils vous volent votre nouvelle blonde?
Ah, entre les deux, j'aurais plus peur de ma blonde, là, mais parce qu'elle est précieuse, mais les candidats aussi sont précieux.
Comment on gère ça, cette relation-là, ces deux personnes publiques? Avez-vous tracé les paramètres? Y a-t-il un genre de prenup où vous vous êtes dit, OK, on fait ça de même?
On parle pas de ça.
Avant de le rendre public, ça nous a tourmenté. Là.
Ouais. Ça fait combien de temps?
C'était une semaine. Tu sais, c'est quoi une nouvelle relation? Quand est-ce que ça commence? C'est pas clair, là.
Ouais.
Mais mettons qu'à partir d'avril.
Faudrait demander à la demoiselle son meilleur dans les dates, d'habitude.
Non, c'est pas que je suis pas bon dans les dates. C'est juste que si tu es à la première rencontre, si au premier souper, c'est quand que ça devient officiel. À partir d'avril, on a commencé à se fréquenter puis à se voir. C'est magnifique, là, honnêtement. Je suis heureux de ça. Maintenant, je veux pas la vivre de façon publique. En même temps, c'était nécessaire de le rendre public, notamment pour elle, pour qu'elle respecte toute la transparence nécessaire. Maintenant, on sait que ça attire le regard. Alors, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas, j'en ai aucune idée. On va essayer d'être parcimonieux, puis en même temps, il faut vivre aussi, là. T'sais, j'étais allé au restaurant en fin de semaine, on va pas se cacher, là. Si quelqu'un prend une photo, c'est la vie, tu sais. À partir de là, la vie est belle.
Merci, M. Marchand.
Salut.
Bye-bye. Bruno Marchand, maire de Québec.
C'était les meilleurs moments de l'entrevue d'hier livrée par Bruno Marchand avec l'équipe de Gravel dans le retour, Denis, Véro et Audrey. Sûr que par texto, les enjeux de transport, c'est pas mal tout le temps ce qui retient l'attention. Là. Hier, il y a beau avoir eu ben des sujets qui ont été abordés avec le maire de Québec. Là, ce que je viens de vous faire entendre, c'est un 12 minutes. Là, j'ai rappé le plus possible cette entrevue-là pour garder le plus essentiel. Évidemment, l'entrevue complète se retrouve sur le blvd.fm, sur l'application aussi. C'est sur la page YouTube de Boulevard 101 également. Mais c'est ça. tout ce qui est transport, c'est pas mal ce qui fait le plus réagir. On a JP qui nous dit que c'est un peu paradoxal. Il enlève des autos de la route, mais il rapetisse les routes à cause des pistes cyclables. Fait qu'au final, ça reste autant congestionné. On a Félix qui nous dit « J'aime qu'il soit au courant de ses dossiers et qu'il ne bégait pas. Par contre, j'aime mieux l'idée du SRB de Sam Ahmad. » On nous parle des stationnements payants à l'Université Laval également. C'est Gary qui nous dit que déjà que la location d'un terrain au Stade TELUS coûte une fortune pour les programmes. En plus, le stationnement, c'est vraiment une autre taxe déguisée. Fait que fait un lien avec les fameuses taxes déguisées de Bruno Marchand. Plusieurs en parlent, ça depuis quelques jours particulièrement, en disant « Ouais, ben là... C'est beau de se vanter d'avoir une ville qui est donc bien en santé financièrement, puis qu'on n'a pas augmenté les taxes, puis le Moody's, puis la cote de la ville, puis tout ça. Mais OK, t'as peut-être pas augmenté les taxes en tant que telles. Mais là, si on prend la taxe à l'immatriculation, si on prend la taxe CECHA, si on prend les valeurs des propriétés qui ont augmenté, ce qui fait que, bien plate, mais la valeur de tes taxes augmente beaucoup aussi. Ça, pas mal tout le monde l'a vécu à Québec. Aussitôt que t'es propriétaire, là, la valeur de ta propriété explose. Ben, tes taxes vont exploser aussi. On a Nadine qui nous dit que c'était une intéressante entrevue de l'équipe de Gravel dans le retour, que c'est pas facile de gérer une ville comme celle de Québec. Puis ça, en effet, je pense qu'il y a personne qui ferait une job parfaite comme maire de Québec. Bruno Marchand qui... S'il y a une chose qu'on peut pas reprocher à Bruno Marchand, ou du moins, je parlerai pas pour vous, là, mais personnellement, ce que je reprocherais pas à Bruno Marchand, c'est quand il avance des idées, ben il va y croire. On peut penser à son tramway, on peut penser à ce qu'il prône en matière de transport avec les pistes cyclables et tout ça. Il va de l'avant, puis ce que disait Denis Gravel dans le Pit Stop à Matin avec Marceau, tous les matins en passant du lundi au jeudi à 7h45, Denis Gravel qui vient faire son tour avec Marceau, Jeff et moi. Denis disait qu'il a senti que c'est un maire qui est un peu en contrôle en ce moment, dans le sens où il ne se sent pas challengé par ce qui devrait être son opposition en vue des élections de novembre. On parle d'une course à deux avec Sam Ahmad de Leadership Québec. Sam Ahmad, là, qui était vu comme celui qui allait arriver puis qui allait tasser Bruno Marchand. Puis... Et là, Sam Ahmad, c'est parce qu'il accumule les erreurs. Il présente des projets qui sont intéressants. Tu sais, je pense au SRB. Moi, c'est sûr que tu me parles du SRB. L'idée de base, je la trouve super. Ça coûte moins cher, tant mieux, good. Mais à part ça, êtes-vous capable de me dire ce que Sam Ahmad a proposé de concret qui fait que demain matin, tu votes pour Sam Ahmad? Il y en a qui vont préférer donner leur vote à Stéphane Lachance et à Respect Citoyen. Ça vient diluer le vote du côté des anti-tramways, alors que du côté des pro-tramways, Claude Villeneuve est assez faible, merci, présentement. Et ça, qui ça avantage? Puis ça revient à ce que je disais puis à ce que Denis a mentionné ce matin. Ben ça avantage Bruno Marchand, qui en ce moment est en pleine possession de ses moyens. Puis c'est pas compliqué. Pour que Bruno Marchand échappe les élections de novembre avec comment ça s'enligne présentement, va falloir une bourde monumentale de Bruno. Je sais même pas ce qu'il pourrait faire pour échapper aux élections. Parce que ses idées, on les a. On sait qu'il est pro-tramway. On sait qu'il fait des pistes cyclables. On sait, ou du moins plusieurs assument, qu'il fait une guerre à l'auto. Même si lui, il ne l'appelle pas comme ça, puis il dit que d'avoir moins d'auto, c'est bon pour ceux qui ont des autos aussi, tout ça. Là. Je vois même pas ce qu'il pourrait dire ou faire Bruno Marchand pour échapper les prochaines élections municipales, à moins que Sam Ahmad se mette à proposer des affaires extraordinaires puis qu'il se monte une équipe extraordinaire. D'ailleurs, dans l'actualité, question d'aller faire un petit tour, Hugo Langlois qui va tenter de se faire élire au municipal auprès de Sam Ahmad, animateur, chroniqueur. C'est le Soleil qui a appris qu'il allait joindre les rangs de Leadership Québec. L'annonce qui va venir cet après-midi. Hugo Langlois qui va se présenter dans Vanier du Berger. Bref, tout ça pour dire que ça va bien pour Bruno Marchand. Dans les prochaines minutes, c'est un texte qui... tiens, on a commencé le show en parlant du rapport de la coroner Jeanne Kamel sur la mort de la fillette de Granby. On va en reparler d'ailleurs plus tard avec Pascal Cévé, entre autres. Mais le Soleil, ce matin, en une, nous parle d'un homme qui est mort après être resté des heures sur le plancher de sa chambre avant qu'une ambulance arrive. Et il y a un rapport de coroner qui a été rendu public dans les derniers jours par rapport à ça. On jase avec Marc Allard de l'équipe d'enquête du Soleil. Vous écoutez Le Point de Max à Boulevard 102.1. Il est 10h31. Le Point de Max. C'est 20 degrés à Québec présentement, 25 degrés avec l'humidex. On attend pas mal, pas tant plus que ça, je vous dirais, aujourd'hui. Quoique, avec l'humidex, ça pourrait aller jusqu'à 30, puis ça va être humide parce qu'on a des possibilités d'averses et peut-être même d'orages cet après-midi. Pour ce soir et cette nuit, c'est 12 avec quelques nuages. Demain, méchante belle journée, généralement ensoleillée, avec 26 degrés, puis on va en profiter parce qu'après ça, c'est un week-end assez pluvieux qui nous attend. L'actualité, c'est pas nécessairement joyeux aujourd'hui, je vous dirais. On a parlé d'entrée de jeu du rapport de la coroner Jeanne Kamel par rapport au décès atroce de la fillette de Granby en 2019. Puis on va d'ailleurs y revenir encore là, d'ici la fin du show parce que pour moi, c'est la nouvelle de la journée. Mais en une du soleil depuis ce matin, un travail de Justine Mercier de l'équipe d'enquête et de Marc Allard aussi de l'équipe d'enquête. Le titre, mort après être resté des heures sur le plancher de sa chambre. Puis là, tu te dis, bon, une autre histoire, qu'est-ce qui est arrivé, y est où le problème? Et pour en parler, ben c'est Marc Allard, justement, de l'équipe d'enquête du Soleil qui est au bout du fil. Marc, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Yes, merci beaucoup. Bon, je pense que des façons de le dire, il n'y en a pas mille. Le titre, l'image bien, puis l'introduction du texte aussi. Il a fallu près de 2h30 pour qu'une équipe de paramédics se présente au chevet d'un octogénaire effondré sur le plancher de sa chambre, le bras replié derrière son dos. Deux semaines plus tard, il a succombé aux complications provoquées par sa chute. Ça résume assez bien l'histoire que vous nous détaillez bien dans le Soleil ce matin.
Oui, ça résume bien. Ça met le doigt en fait sur plusieurs éléments là, sur le fait. Bon, évidemment que c'est très triste là qu'un aîné comme ça là, fasse une chute et reste là, effondré là, sur le plancher de sa chambre là, dans une posture très souffrante comme ça là, durant de longues heures. Mais surtout, c'est aussi comme le coroner la souligne. Possiblement un échec là, du système de santé à venir au secours de cette année-là. Là.
Parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dessus, puis on va les passer un par un. À la base, puis en même temps, je dis à la base, peut-être que le travail aurait dû commencer sur place avant l'arrivée des ambulances, puis là, il y a aussi un manque de communication là-dedans, puis on y viendra. Mais, tu sais, des histoires d'attente d'ambulance pendant des heures... J'ai l'impression qu'on pense que ça arrive juste dans des villes peut-être plus éloignées, dans des villages. Là, on est vraiment à Québec, puis c'est arrivé cette histoire-là.
Oui, tout à fait. Puis ça fait quand même quelques années là, que on en parle dans Le Soleil et dans plusieurs autres médias là, qu'il y a des problèmes de disponibilité des ambulances. Là. Mais c'est pas nécessairement un nombre d'heures ou un nombre d'ambulances là, qui cause ces problèmes-là. Des fois, c'est juste la conjoncture. À un certain moment, il y a beaucoup d'appels, puis là, toutes les ambulances sont prises. Puis dans ce cas-ci, ce qui semble s'être produit, c'est que quand l'homme de 88 ans a été retrouvé là, effondré sur le plancher, la préposée aux bénéficiaires a appelé le 911 pour avoir une ambulance. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'ambulance disponible. Elle a rappelé une heure plus tard, il n'y avait toujours pas d'ambulance disponible parce que, disons, dans la priorisation qui est établie par le 911 et le Centre de communication de santé, c'était pas une priorité, ce cas-là. Et ce qui fait qu'il y a eu un délai possiblement avant la répartition de l'appel, là, avant ce qu'on appelle le dispatch là, dans le jargon des ambulances, mais c'est très difficile là, d'avoir le fin mot de l'histoire parce que les enregistrements là, ont été perdus.
Ouais, ça c'est une autre affaire, puis c'est une autre couche là. Mettons qu'on commence du départ pour bien comprendre. L'homme donc s'écroule, il y a appel au 911, on met un code de priorité P4, et là tu l'as mentionné, il n'y a pas d'ambulance. On rappelle une heure plus tard, on dit qu'il n'y a pas d'ambulance encore, puis finalement ben ça a pris 2h30. Et l'homme est décédé 2 semaines plus tard. Est-ce qu'on a pu établir qu'il y avait un lien entre le délai d'attente et le décès 2 semaines plus tard?
Ben, ce que la coroner dit, c'est que, dans ses mots, elle dit que la condition de l'homme, en fait, l'homme il est décédé suite aux complications de ce qu'il appelle une rhabdomyolyse. Ça, c'est quand les tissus musculaires se désagrègent, puis ça envoie une espèce de toxine dans le sang. Et puis, dans ce cas-ci, ça a provoqué là, vraiment une infection là, au niveau du foie, je crois. C'est ce qui fait que l'homme est décédé. Et donc, le fait qu'il soit durant des heures au sol, dans cette position-là, c'est sûr que quand, en plus, les secours tardent à arriver, ben ça fait en sorte que ben, peut-être qu'il aurait pu être une mort évitable. C'est-à-dire que si l'ambulance était arrivée plus tôt, ben, il y aurait peut-être eu des chances de le sauver, cet homme-là. Par contre, la coroner n'est pas en mesure là, d'établir cette cause-là hors de tout doute. Là.
Par rapport au fait qu'il y a eu des manques de communication, clairement, tu sais, je veux dire, t'appelles une ambulance, ça arrive pas. Me semble, dans ma tête à moi, t'as pas à rappeler l'ambulance. Puis là, ce qu'on comprend avec ce rapport-là de la coroner, c'est que l'équipe de l'hôpital a essayé de rejoindre la ressource intermédiaire de l'homme pour avoir des informations, pour avoir des détails sur son état, mais qu'on n'a pas réussi à rejoindre la ressource intermédiaire. Là aussi, un problème.
Oui, c'est comme s'il y avait toute une série de problèmes de communication. Disons que la coroner n'a pas eu la job facile. Puis là, dans ce cas-ci, c'est ça, il y avait vraiment comme un problème de communication avec la ressource. Il n'était pas en mesure d'avoir les informations nécessaires dont il aurait eu besoin. Puis là, ensuite, quand la coroner, elle, a voulu faire enquête puis avoir le fin mot de l'histoire, bien, elle aussi, elle a eu des difficultés parce que les enregistrements et des bandes audio de l'appel au 911 n'étaient plus disponibles.
Ouais, ben ça c'est un point qui est intéressant, mais qui nous force à nous poser des questions. Marc Allard, t'es journaliste au Soleil. Est-ce que des cas comme ça où on perd la trace d'appel au 911, à ta connaissance, ça arrive souvent?
Non, ça arrive pas souvent. Moi, c'est la première fois que je vois ça là, en 20 ans de métier là, puis j'en ai couvert quand même beaucoup là, de ce type de cas-là. Puis normalement, les appels au 911 sont accessibles au coroner là, quand il fait son investigation sur un décès. Mais dans ce cas-ci, là, il y a eu une cyberattaque là, dont le centre de communication santé a été victime, ce qui fait qu'il a entraîné une perte de données informatiques. Puis donc, c'était impossible d'avoir accès aux bandes audio de l'appel 911.
Là, on parle de tous les problèmes. Maintenant, ce qui est intéressant avec un rapport de coroner, comme dans ce cas-ci, c'est qu'il y a des recommandations qui viennent. Puis là, dans un monde idéal, ben on va suivre ces recommandations-là. Puis tu sais, tantôt, je parlais des recommandations de Jeanne Kamel en lien avec le décès de la fillette de Granby. Puis il y a des textos qui rentraient de gens un peu cyniques, puis je pense qu'on peut pas leur en vouloir, de dire « Ouais, ben ça, c'est du blabla gouvernemental, puis on sait bien que ça, c'est des recommandations qui seront pas suivies. » Dans ce cas-là, les recommandations, est-ce qu'elles ont été entendues?
Oui, les recommandations ont été en tout cas entendues certainement par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, là, où il a été question là, justement là, du nombre d'heures d'ambulance là, accordées à la région de la capitale nationale. Le rapport de la coroner souligne bien que il y a eu une augmentation des heures affectées aux ambulances. Par contre, on n'est pas encore en mesure là, de voir s'il y a eu des effets là, probants de cet ajout d'heures-là, parce que c'est trop tôt là, dans le temps pour le dire. Pour ce qui est de la résidence, il va avoir là un audit qu'on appelle, là, c'est-à-dire pour être certain là, que tout est fait là, dans les règles qui s'appliquent dans ce cas-ci.
Parce que pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que les audits qui ont été réalisés du côté de la Samoa, pour l'instant, n'ont pas démontré d'écart significatif, alors que à la lecture du texte du Soleil ce matin, il y a l'air d'avoir des écarts que je considérais significatifs. Fait que là, c'est de faire un autre examen pour essayer de voir si maintenant il y a ces écarts-là, quoi.
Ben c'est ça. Ils vont essayer d'aller au cœur de l'histoire là, puis d'essayer de voir si justement il y a pas moyen d'améliorer les procédures à l'interne là, pour être sûr que ce genre de situation là ne se reproduise pas. Mais ce qui est souligné par la coroner, c'est que quand il y a eu le décès de l'homme de 88 ans, ça a été très difficile là, d'établir la communication avec la résidence là, à ce moment-là.
Tu l'as mentionné plus tôt, des histoires d'ambulances indisponibles qui n'arrivent pas. On commence à en voir pas mal au fil des dernières années. Le Soleil est quand même pas pire pour nous rapporter de ces histoires-là comme on le fait en une ce matin. Là, on a ces recommandations-là, puis je reviens à ce que je disais, il y a des auditeurs cyniques tantôt qui disaient « ben des recommandations, c'est du blabla, puis ça donne rien.
Mm-hmm. »
C'est pas la première histoire, puis c'est pas le premier rapport qu'on a qui arrive avec des recommandations. Est-ce qu'on a vraiment des raisons de croire que là, tout d'un coup, ça va changer?
Ben je suis pas certain qu'il faut être aussi cynique des fois qu'on l'entend, là. On le voit quand même dans l'article qu'il y a eu une réaction là, du CIUSSS de la capitale nationale à la suite là, du travail de la coroner, une réponse aussi de la résidence le Samoa. Est-ce que les recommandations vont être appliquées à la lettre? Difficile à dire, mais chose certaine, il y a de l'écoute, puis probablement qu'il va y avoir là, des changements à la suite là, de ce rapport-là. Ça souligne aussi l'importance du travail d'une coroner comme ça, parce que s'il faisait pas ce type de travail-là, ben c'est des morts là, qui peut-être resteraient dans l'oubli et qui se reproduiraient parce que le même genre de circonstances surviendraient à nouveau.
Marc Allard de l'équipe d'enquête du Soleil, derrière le papier ce matin, mort après être resté des heures sur le plancher de sa chambre. Merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi.
À la prochaine.
Salut.
Comme je vous dis, l'actualité qui n'est pas super joyeuse ce matin, on va bien sûr revenir dans la prochaine heure sur ce qui est sorti, le rapport de 26 pages de la coroner Jeanne Kamel sur les lacunes du système de protection de la jeunesse qui ont mené à la mort atroce de la fillette de Granby en 2019. Ça retient beaucoup l'attention et on en a parler en début de show. Là, pour l'instant, on fait un petit saut en politique fédérale parce que Mark Carney, le premier ministre, a réuni son cabinet pour les deux prochains jours dans la région de Toronto. On veut élaborer un plan d'action pour l'automne et Mark Carney, présentement, s'adresse aux médias.
Puis des changements, des grands changements technologiques. Alors, il y a des occasions, mais des grands défis en même temps. Alors, nous mettons l'accent sur des choses que nous pouvons maîtriser, que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire les grands projets à l'échelle nationale, il faut les accélérer, il faut les identifier et accélérer. Deuxièmement, le lancement de Maison Canada avec l'objectif de
bâtir Maison Canada, on s'en souvient.
De construire des maisons ici au Canada. Une nouvelle politique industrielle, y compris une nouvelle politique industrielle de la défense.
On va se dire une affaire qui reste plate à écouter, Mark Carney. Hein? Rien contre les compétences de l'homme, mais au niveau de s'exprimer et d'être intéressant, et j'enlève rien peut-être à la pertinence des propos, mais et là où il y a les textos en bâtir Maison Canada, je pense que ça nous a marqué, ça a marqué plusieurs personnes au courant de la dernière campagne électorale, le fameux bâtir Maison Canada. 88-971-101, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio. Vous pouvez aussi passer par le Twitch, les gens qui sont très réactifs par le Twitch, là, BLVD, barre en bas, FM, par texto, par rapport à la discussion qu'on a eue dans les dernières minutes avec le journaliste au soleil Marc Allard sur l'histoire d'un homme qui est décédé après être resté des heures sur le plancher de sa chambre parce qu'il n'y avait pas d'ambulance. Bon, ce qu'on nous mentionne, la problématique, c'est de nuit. On est moins de 10 ambulances dépendant certaines heures. C'est alarmant. Ça moi, est pas une... Bon, on critique la résidence pour personnes âgées qui a des mauvaises expériences avec les paramédics. La qualité de prise en charge de la résidence n'est pas optimale. On nous parle de la formation des fois du personnel qui peut être problématique. Un autre texto, toujours aucun ajout d'heure d'ambulance à Lévis malgré la recommandation du coroner à la suite du décès d'Hugo Saint-Onge. Fait que quand je vous parle de gens qui sont cyniques, ben c'est un peu ça. C'est, on voit des rapports de coroner, puis là, il y a des recommandations, puis finalement, ben on se rend compte qu'une couple d'années plus tard, il arrive une histoire semblable. Là, on retourne dans le passé, puis on fait, ben voyons donc. Il y avait eu quelque chose de même qui était arrivé, mais on se souvient, puis il me semble qu'il y avait eu des recommandations, puis un rapport, puis tout. Puis on retourne lire le rapport, puis les recommandations. Puis tu vois que les recommandations, ben ça n'a pas été suivi. Et c'est ce qui est un peu déploré présentement. Puis on a deux cas ce matin. Dans le cas de la fillette de Granby, je veux dire, ça a tellement fait jaser à travers le Québec, puis le rapport de ce matin frappe assez fort, là, de dire, là, il n'y a personne qui se parle, va falloir se parler, va falloir allumer quand il y a des enfants en danger, puis va falloir arrêter de niaiser. Ben, j'imagine que ça va assez frapper au niveau politique. Ils adorent ça, les politiciens, là, réagir quand il y a quelque chose qui se passe, parce que agir avant une tragédie, ben, ça, c'est pas payant. Ça, agir avant une tragédie, ça sert à rien. Par exemple, agir après une tragédie, oh que là, on jase, parce que là, il y a les Kodak, puis là, il y a les caméras, puis là, on passe dans les médias, puis là, c'est terrible ce qui est arrivé. Fait que j'imagine, j'ose croire, que dans le cas du rapport de Jeanne Kamel en lien avec le décès tragique de la fillette de Granby en 2019, là, ça fait déjà 6 ans, là, bon, tant mieux, là, on a enfin le rapport 6 ans plus tard qui est très étoffé, très détaillé. Ben là, le gouvernement va devoir lire ces 12 recommandations. C'est pas beaucoup, 12 recommandations. D'après moi, on est capable de lire ça assez rapidement, puis d'assez rapidement mettre un plan en place, puis d'investir un peu d'argent qu'on a peut-être coupé dans les écoles ou je sais pas où, là. Je sais qu'on a plus beaucoup d'argent puis qu'on aimerait ça économiser, mais quand c'est des cas comme ça, je pense que la population chialerait pas contre un petit peu d'investissement. OK, un moment que vous aimez beaucoup. Déjà, même on l'a juste fait une fois, mais le segment Open Mic avec Audrey Pinchot, ça s'en vient dans quelques minutes, puis on va être pile à l'heure à 11h pile. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max. Point de Max.
Il est 11h pile parce que j'ai été excessivement discipliné dans ma première heure. Et 11h pile, ça, chaque jour... C'est l'heure à laquelle je dois accueillir... Ben, pas je dois, là, que... Ben, oui, on me l'a... Non, mais dans le sens... Oui, je dois, on me l'a imposé, mais c'est imposé avec plaisir. Audrey Pinchot!
Hey, tu te calmes, mon ami, c'est épouvantable.
C'est mon sport préféré. Ça va?
Hey, je suis contente de te retrouver. Tu vois, moi, j'arrivais avec plein de compliments. J'allais te dire, je vais m'habituer rapidement à venir te rejoindre dans le studio à 11h.
Tu vas t'habituer, c'est pas tant
C'est comme
plus.
Un compliment d'un peu, hein?
Ouais, fait qu'on se mérite.
Ouais, je pense qu'on se mérite.
Je pense qu'on se mérite.
Je suis contente de te voir.
Ça a bien été hier avec l'équipe de Gravel. J'ai présenté un petit wrap-up. Je vais faire ça de temps en temps quand vous faites des bonnes affaires. Là.
Ça n'arrive pas souvent
ben, c'est pour ça que je dis de temps en temps. J'ai fait un petit wrap-up, l'entrevue avec le maire a duré quoi, 20-25 minutes?
Presque 30 minutes, wow. En réalité. Oui, on a quand même eu un peu de temps avec, malgré tout, mais ça n'a pas été assez. On a déjà fait des 45 faciles
mais
avec
imagine, ce que j'ai fait, là, parce qu'à un moment donné, j'allais pas vous laisser faire mon show à ma place, là, mais j'ai condensé le plus possible les questions, les réponses les plus intéressantes du maire, puis j'ai fait un 12 minutes ben pile que j'ai présenté plus tôt dans le show.
T'as bien fait, parce qu'il y a beaucoup de questions hier qu'on a posées qui venaient des auditeurs. T'sais, à la base, on a toujours un peu les grandes avenues qu'on veut prendre, là, les inévitables, je vais les appeler comme ça. Mais il y avait des questions plus précises qui venaient vraiment des gens sur nos réseaux sociaux qui nous ont écrit hier. D'ailleurs, vous pouvez continuer de les envoyer, hein, parce que le maire, on le reçoit une fois par mois. Techniquement, la prochaine fois qu'il nous visite, c'est pour un face-à-face. Et là, je me permets de l'avancer parce que de la part de l'équipe de Samamad, j'ai eu un OK. Et de la part du maire Marchand, en direct hier, j'ai eu un OK aussi. Fait que techniquement, c'est un face-à-face qu'on va faire première semaine d'octobre. Le but, c'est pas en passant d'exclure les autres parties. C'est juste que je pense que la grille, en général, on reçoit pas mal tout le monde. Puis le but, c'était vraiment de mettre finalement en face-à-face ces deux individus-là qui semblent avoir beaucoup de choses à se dire et qui ne se partagent pas les informations en pleine face. Fait qu'on va faire ça dans le retour.
Et parlant d'avoir beaucoup de choses à se dire, c'est l'heure de l'open mic.
L'open mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Hier, on s'est parlé de consommation d'alcool. C'est une discussion qui s'est passée entre nous deux, mais je pense qu'on peut se permettre de dire qu'on a ajouté les auditeurs pas mal aussi à cette conversation-là, que tu as d'ailleurs ramené aussi dans Gravel dans le retour. J'étais à l'écoute, puis c'était bien intéressant. Aujourd'hui, puis c'est ce qu'on va faire souvent dans l'open mic, dans le Point de Max, c'est qu'on va inviter quelqu'un à venir, bon, soit s'asseoir en studio ou du moins nous jaser via la technologie, Audrey.
Oui, puis j'ai une fascination, Max, pour tous les métiers qui sont peut-être pas communs. Il y a une couple de mois, quand je faisais l'émission l'Open Mic avec Yann Marceau, on avait reçu Jean-Pierre Gravel, qui est un genre de, je vais l'appeler, célébrant de la vie. C'est-à-dire que c'est un gars qui accompagne les familles endeuillées dans le processus des funérailles. Des funérailles qui sont souvent très, très personnalisées. Ils font toutes sortes d'affaires. Pour avoir déjà vécu des funérailles où il y a un célébrant personnalisé, ça fait toute la différence. On avait jasé de ça, puis c'est peu connu encore, parce qu'on a souvent le réflexe de faire affaire avec des centres funéraires, tu sais, puis
oui.
C'est assez morbide, c'est assez de base, tandis qu'il y a moyen de mettre un peu de couleur dans tout ça, puis d'ajouter de la personnalité dépendant du proche qu'on perd. Je parle de ça parce que on parle ce matin avec une femme qui a une entreprise qui s'appelle Au Pont Couvé. C'est une intervenante en relation d'aide qui a fondé cette entreprise-là pour accompagner les gens dans la naissance, mais la fin de vie aussi, le deuil. Vous connaissez les doulas qui accompagnent les femmes enceintes qui s'apprêtent à donner naissance, bien, il y a un métier qui émerge en ce moment au Canada, celui de Tana Doula.
Tana, mort.
Doula, bon, tu comprends. En fait, on va y demander parce que j'ai aucune idée d'Oula exactement, d'où ça vient, puisque ça veut dire, pour être bien honnête, je vais m'en rendre
compte. J'osais pas le demander.
mais c'est encore très peu connu au Québec, puis c'est appelé à se déployer parce que l'aide médicale à mourir est de plus en plus populaire. Puis tu veux pas nécessairement avoir tout ça sur tes épaules quand t'es le frère, la sœur, la mère, peu importe, le proche d'un individu qui s'apprête à décéder. Je trouve ça super intéressant. J'ai aucune idée ce que ça fait concrètement, en fait, un ou une Tana Doula.
Non plus.
Donc, on a Cynthia Brunel qui est avec nous ce matin pour nous en jaser. Cynthia, bon matin.
Hey, bon matin. Merci de me recevoir.
Et le plaisir qu'on a de te parler parce que c'est méconnu. Puis, pour être très honnête, avant, il y a 3 jours, j'avais aucune idée que ça existait des Tana Doula. J'aurais jamais pensé pouvoir potentiellement faire affaire avec ce monde-là.
Mais attends, hier, quand tu m'as dit, hey, demain, on parle à une Tana Doula, Tana du quoi?
Tu aurais dû voir la face, Cynthia. Hey, je sais pas
si... ça.
Ben oui, c'est ça. Tana, on sait que c'est relié à la mort, mais doula exactement, ça vient d'où? C'est quoi la signification derrière?
En fait, la signification de doula, c'est la femme qui sert. Donc, évidemment, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là, des doulas, il y en a de tous les genres. Là, donc, c'est pas juste des femmes. Mais c'était vraiment dans la période grecque, donc le Tana, là, Thanos, hein, on fait le lien, vous l'avez fait. Doula, c'est un peu le même principe. Ces deux mots-là ont été collés ensemble. Donc, la femme qui sert, la mort, finalement. Donc, quand on parle de service, on ne parle pas ici de soins médicaux, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un peu de materner, de prendre soin, d'entourer.
C'est ça, le... Concrètement, qu'est-ce que c'est là, une tanadoula? Je dis une tanadoula parce que je ne sais pas si c'est plus féminin que masculin comme domaine. Mais concrètement, ça fait quoi au quotidien? Ça mange quoi en hiver, ça?
Définitivement, c'est plus féminin. On veut plus de genre. Par contre, là, tu sais, on essaye là, de démontrer que c'est possible. Là. Mais définitivement, il y a plus de femmes qui font ça. Puis ce métier-là, en fait... c'est d'apporter un support à la personne qui est en fin de vie, mais aussi à l'espèce de bulle familiale autour. Donc, une personne, on s'entend, va recevoir les soins médicaux au Québec, va recevoir, évidemment, si on pensait aller faire le préarrangement funéraire, va recevoir des bons conseils pour ça, il y a des notaires, tout ça. Donc, tous les aspects un peu plus techniques sont couverts. Et on s'est rendu compte, en fait, que au niveau de l'émotionnel, du spirituel, ça dépend du milieu dans lequel tu es. Donc, quelqu'un qui est dans une maison de soins palliatifs va recevoir énormément de services différents versus une personne qui va vivre sa fin de vie à domicile. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on joint ces familles-là et on apporte le support qui est nécessaire, que ce soit, oui, au niveau de l'écoute, de créer des legs émotifs, donc de laisser quelque chose à ceux qui vont rester, que ce soit de travailler le livre de recettes pour que ça reste dans la famille, que ce soit d'enregistrer des petites vidéos qui vont rester, qui vont donner aux petits-enfants. Donc, on vient un peu supporter ce qui est déjà mis en place par le réseau actuel. Et il y a aussi une question de disponibilité, là, tu sais, dans le sens où nous, notre téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Là, donc, une conjointe qui s'occupe de son mari à la maison qui est en, tu sais, qui en peut plus à 11 heures le soir, bien, la ligne est ouverte, là, tu sais. Donc, il y a un aspect aussi de flexibilité, de disponibilité qui est différente de ce qui est déjà offert, finalement.
Je comprends que dans les qualités que ça prend pour faire ce travail-là avec des proches de quelqu'un qui va décéder, ça prend des qualités comme l'empathie. Ça me semble assez évident. À partir de ça, une fois que tu es une personne empathique, là, j'imagine que c'est pas juste ça. Y a-tu des études?
C'est pas n'importe qui peut faire ça, mettons.
Non, mais c'est exact. Y a-tu un background particulier que ça prend?
Bien, tu sais, avant les études, clairement, il faut avoir une espèce d'intérêt pour la mort et ne pas en avoir peur. Puis je dis pas que toutes les tanadoulas n'ont pas peur de la mort, là. Tu sais, il y a une différence entre avoir envie de mourir et en avoir peur, là, mettons. J'ai pas peur, mais j'ai pas envie que ça m'arrive demain, tu sais. Mais une aisance avec la mort, une aisance avec les émotions très intenses, la vulnérabilité aussi parce qu'on travaille dans un milieu et des personnes très vulnérables. Donc, il faut avoir cette espèce d'aisance-là avec l'inconfort, avec le silence. Mais à part de ça, quand on parle niveau personnalité, il y a ça, là, mais après, c'est un peu comme le même principe que les doulas de naissance. C'est pas régi par personne, ce métier-là, on s'entend. Cependant, on milite très fort que les doulas de naissance comme les tanadoulas soient formées par des écoles qui ont de la rigueur, qui sont sérieuses, qui ont un cursus qui fait beaucoup de sens au niveau de l'intervention humaine. Parce qu'une parole dans ces familles-là peut porter en fait l'expérience d'une façon si positive, mais une phrase peut aussi détruire l'expérience complètement. Donc, c'est de l'intervention. Donc, il y a des écoles au Québec qui existent. Il y en a deux, en fait, qui sont qu'on retrouve le plus souvent. Il y a l'école Isabelle Pitre Coaching, puis il y a l'école Cybelle aussi qui est à la fois, en fait, c'est basé à Montréal, mais qui offre aussi la formation en Europe, donc à toute la francophonie mondiale, finalement. Donc, puis je le dis tout de suite, moi, je travaille avec l'école Cybelle, j'enseigne là-bas. Mais j'ai aussi suivi les formations de d'autres écoles parce que Cybelle n'existait pas à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par une école ici, mais je suis aussi allée me former en Colombie-Britannique avec le Douglas College qui, eux, me permettaient d'accéder à une association. L'association, elle, s'assure que les formations qui sont reconnues offrent un contenu de qualité et mettent des tanadoulas sur la route de ces familles-là.
C'est que c'est encadré.
Une posture professionnelle, il y a un code d'éthique, exactement. Donc,
Je regardais ouais. ça, là, tu parlais de l'école Cybelle, là, c'est 800 heures de formation en ligne, puis c'est quoi, 80 Tanadoula depuis 2019 environ qui ont été certifiés, de ce que je comprends?
Oui, exactement. On est en voie d'en avoir plusieurs aussi là, dans les prochains mois. Il y a aussi un micro-programme qui est sorti, donc un petit peu moins d'heures, comme un peu pour se tremper les orteils, pour voir, avant de passer à 800 heures, là, j'ai-tu vraiment envie de faire ça? Parce que c'est quand même, tu sais, c'est beaucoup d'heures de formation, c'est beaucoup de travaux aussi. Quand on passe dans une formation comme ça, nécessairement, on va travailler sur soi. Nécessairement, on va aller réveiller des petites choses qu'on a vécues. Puis je ne mentirais pas que la majorité des gens qui vont dans ce milieu-là, ben, ils ont perdu quelqu'un. Il y a quelqu'un dans leur entourage qui est décédé, ils ont accompagné un proche. Fait que on a tout un petit quelque chose à aller guérir qui, avec cette formation-là, ben oui, on apprend professionnellement, ça prend quoi, on dit quoi, on fait quoi, c'est quoi nos limites, mais en même temps, ça nous permet de développer cette aisance-là avec la mort et la fin de vie en soi. Là.
Mais justement, si tu me permets, Cynthia, j'ai envie de te demander comment t'en es venue à exercer ce métier-là, à créer ton entreprise à travers tout ça, parce que tu l'as dit, il faut vivre quelque chose qui te mène à avoir envie d'aider les autres.
Là. Oui, oui, définitivement. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, on choisit un métier qui va nous permettre d'aller, tu sais, c'est un peu égoïste dans le sens où quand on choisit un métier, on va venir le faire pour nous avant de le faire pour les autres. Puis j'avais trouvé ça vraiment réaliste dans mon cas parce que moi, je viens du milieu automobile, l'administration, gestion des affaires, très énergie masculine dans l'action, la performance, les chiffres. Ma mère est décédée en 2019, après 4 ans de cancer. Elle est d'ailleurs décédée à l'Hôtel Dieu de Québec et je prends toujours la chance de shout-out à toute l'unité des soins PAL de cet hôpital-là qui ont été absolument magnifiques et précieux pour nous, là. Mais à partir de juin 2019, là, je dirais que ma vie a changé complètement au sens où j'ai remis ma vie en question. Et ça m'a fait prendre conscience de la richesse de la vie, du fait que je vivais pas tant que ça, dans le fond. J'étais comme sur un pilote automatique, là, puis naviguer dans les soins palliatifs pendant des mois, j'allais parler à des gens, puis je me sentais super à l'aise. Fait que j'ai dit, bon, ben j'ai trouvé une formation, puis je me suis dit, si ça m'apporte à faire ça plus tard, tant mieux. Si ça m'apporte juste l'espèce de compréhension puis de cheminement que j'ai besoin en ce moment, ben ce sera juste ça, tu sais. Et finalement, ben j'ai tombé complètement en amour avec le milieu. Et depuis 2020, là, je pratique ça, là. Ouais.
Justement, et comment ce milieu-là? On dirait que c'est un milieu que je vois mal être très compétitif, mais en même temps, dans le monde des affaires, il y a toujours une certaine compétition. Y a-tu plusieurs façons de faire différentes? Est-ce qu'il y en a qui remettent en question la façon de faire de d'autres?
Bien, je dirais que notre compétition en ce moment, c'est pas tant les autres Tanadoula, puis ça, on va jamais en avoir trop parce que la population est vieillissante et tout plein de raisons, là, mais c'est surtout le fait qu'on n'est pas très, très connu. C'est surtout ça, la difficulté. C'est que les gens, du moment qu'on on a comme cette vision-là un peu, du moment que ça sort de ce qui est fait dans les hôpitaux, dans le réseau public, on est dans de l'ésotérisme. Ça fait que un peu la naissance avant, tu sais, le disant, d'où la naissance, c'était les granos là, qui engageaient ça.
C'est vrai.
C'est toutes les familles qui font ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, puis c'est très normalisé. Même dans les milieux hospitaliers, on est la bienvenue. Là, ben là, Tanadoula, là, on est peut-être là. Là, on est un peu dans... Tu sais, quelqu'un nous appelle, on est comme, oh, du monde open ici, là. Tu sais, on est ouvert à d'autres choses. Tu sais, fait que on est là. On est comme à se dire... Il y a un combat un peu avec ce que les gens perçoivent puis ce qu'on fait réellement, parce qu'on connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup du milieu, plus que d'aller jouer du tambour et brûler de l'encens. Là,
mais c'est ça! je veux vraiment qu'on défasse un peu ce mythe-là, parce que j'allais te poser la question, Cynthia, combien de temps dure ton service dans le avant, dans le après, quand on fait affaire avec toi? Puis mettons qu'on enlève le côté spirituel, justement, ton day-to-day, là, techniquement, c'est quoi tes accompagnements avec les familles qui veulent faire affaire avec toi?
Dans le day-to-day, là, on est dans des rencontres, que ce soit en Zoom, souvent avec la famille, avec la personne en fin de vie, je vais me déplacer à domicile. On va jaser des craintes de la personne. On va parler aussi de qu'est-ce qu'il a envie de vivre pour les dernières semaines. On peut mettre des choses en place pour faciliter, tu sais, des espèces de mini-rêves, là, tu sais. Mais avec la famille, c'est beaucoup plus au niveau, c'est beaucoup plus émotionnel, là, tu sais, le deuil qui se prépare, le deuil qui suit aussi. Fait qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font avant. Mais tu sais, il n'y a aucun accompagnement qui a pris le même temps. Tu sais, je dirais qu'en moyenne, on est là peut-être 2 mois. Mais il y a des familles que je vais accompagner dès le diagnostic, puis que c'est moi qui vais faire la cérémonie au salon après. Là, tu sais, donc, okay. C'est ça. Donc, ça peut être un très long service si on a développé ce lien-là, puis c'est ce que la famille souhaite. J'ai déjà aidé à vider des maisons, là, tu sais, à trier les choses. Puis, fait que ce service-là va prendre une forme un peu unique à chaque famille que l'on joint. Mais, tu sais, tout ce qui est information au niveau des testaments, tu sais, on peut rien faire de légal. Par contre, on peut t'expliquer un peu, tu sais, c'est quoi les étapes à faire. C'est quoi l'importance de trier les papiers à l'avance? Qu'est-ce que tu laisses à ta famille en termes de planification de succession? Là, ça fait une différence. Fait que même au niveau de ça, on est capable de faire un bout de chemin avec eux, de leur expliquer certaines choses.
Mais c'est intéressant, puis, c'est intéressant tout ça parce que je me demande, est-ce que les familles, les clients qui viennent te voir, ils savent ce qu'ils viennent chercher ou sont tellement où ça va tellement vite puis t'es tellement dans un moment où tu sais pas ce que tu vas vivre puis t'as juste besoin de quelque chose puis t'as l'impression que la personne qui peut te donner quelque chose là, ce support là, ben c'est Cynthia Brunel, ta nadoula, puis c'est toi qui vas voir après ça, après le contact, qu'est-ce que tu peux faire pour la famille sans qu'elle le sache nécessairement elle-même.
Exact, ça c'est clair. Il y a toujours une rencontre au départ que je vais prendre le temps de savoir c'est quoi les besoins, parce qu'il y en a qui ont besoin de quelqu'un qui va venir faire les soins physiques, là, mais c'est pas ça. T'sais. Donc, il y a toujours cette conversation-là à avoir au début, mais majoritairement, là, les gens, ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de soutien, de support, ils savent pas exactement quelle forme ça va prendre. Mais réellement, ils ont besoin d'un filet de sécurité. Là. T'sais, ils ont besoin que quelqu'un leur dise « OK, voici ce qui peut se passer. Voici les étapes claires qu'on peut faire ensemble. À cette heure, suis-moi, puis on va le faire ensemble, puis ça va déjà alléger. » Puis le fait que moi, je prenne certaines choses sur mes épaules, comme toute la paperasse, ou bon, que tu sais, ça fait juste que la fille redevient la fille d'eux. Le conjoint redevient le conjoint d'eux. Puis à place d'être dans la gestion de la fin de vie, puis tout ce que ça entoure, les contacts, les téléphones, les ci, les ça, bien, on peut retomber dans le contact humain puis prendre ce temps-là avec notre proche.
Ça aide le deuil, probablement aussi. Là. Ça doit alléger épouvantable tout ce fardeau-là. J'ai une question plate pour toi. Je veux qu'on parle un peu d'argent. Parce que, mon Dieu, les gens doivent se poser la question. Tu sais, je t'entendais dire, ça, je peux être 2 mois avec une famille, les aider à vider l'appartement, être là à l'hôpital. Tu sais, j'imagine que c'est des choses... Tu sais, faut que tu manges, là, toi, là, un moment donné, là.
Oh, oui, on a une famille à nourrir.
C'est ça. Est-ce que c'est... parce que j'essayais de faire des recherches un peu avant l'entrevue à savoir justement d'où ça venait. Puis je lisais des affaires de bénévolat, je lisais... Comment tu calcules tout ça? Parce que, tu sais, faut que ça reste humain dans l'approche pour pas que t'aies l'air de la personne non plus qui veut voler le monde dépendamment, tu comprends, des services que t'offres. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, dans le sens que je vois mal sur ton site être écrit « On vide l'appartement à 200 $ là, tu comprends? J'imagine que c'est pas ça, là. Fait que peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne à ce niveau-là.
En fait, ben là, c'est sûr que du moment qu'on parle de finances puis de mort, il y a comme un petit... Ça pogne, là, tu sais, mais...
C'est sûr, ça coûte déjà cher.
Ça coûte déjà cher mourir, effectivement, tu sais, puis... que, en fait, moi, de la façon que j'ai choisi de le faire, c'est à un taux horaire, tu sais, puis il y a des blocs d'heures. Fait que, mettons, une famille qui dit, ben nous, on va passer comme 10 heures de temps ensemble, séparés sur plusieurs moments ou, tu sais, dans un bloc, vraiment plusieurs heures consécutives, ben le prix diminue que si on se parle une heure. Fait que, moi, je l'ai choisi comme ça. Il y a des tanadoulas qui vont faire des forfaits, donc temps de rencontre et présence, par exemple, lors de l'aide médicale à mourir, ça va être tel montant. Donc, chaque entrepreneur à ce niveau-là a un peu la liberté d'aller dans le sens qu'ils veulent. Il y a quand même des lignes directrices. Là, on va se fier beaucoup à tout ce qui est thérapie en relation d'aide, un peu le soutien alternatif qui existe pour baser les prix, ce qui peut aider, et ça, c'est seulement accessible si on a une formation qui compte plus de 1000 heures, c'est qu'il y a des associations comme Rythma qui s'occupent en fait de tous les intervenants en médecine alternative qui, eux, nous permettent d'émettre des reçus pour les compagnies d'assurance privée. Donc, moi, c'est le cas. Je suis aussi naturopathe. Donc, dans ma pratique, je suis capable d'émettre des reçus à ces familles-là, même à des fins d'impôts. Donc, c'est sûr que c'est facilitant pour les gens que j'accompagne parce qu'effectivement, il y a un espace-temps que, par exemple, avec la naissance, on n'a pas. Bien, c'est 9 mois, on a 3 rencontres, je suis là à l'accouchement, puis c'est ça le montant, c'est facile. Là, on part dans une famille, ça peut être 3 mois, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 an.
Ben, c'est parce que le décès n'est pas prévisible. J'ai perdu mon grand-papa l'année dernière, puis le moment où ils nous ont dit de monter sur la Côte-Nord pour le voir, c'était censé être là. Mais Christy, il ne voulait pas s'en aller. Ça a duré 2 semaines de plus. Fait que c'est pas...
interminable.
Mais, c'est ça, ça ne se prévoit pas. Puis tu sais, là, je le dis en riant aujourd'hui, mais ça se prévoit mal. Tu prends combien de monde en même temps quand on parle de je vais appeler ça de tanadoula, y a-tu un terme de d'accompagnement de fin de vie, tiens?
Mais c'est des clients, là. Ouais, on parle de clients, là, parce qu'on ne dit pas patient, parce qu'on n'est pas dans le réseau, mais en soi, souvent, ça va être une famille à la fois que ça va vraiment être en fin de vie. Okay. Des fois, ça va être deux. Mais à travers tout ça, faut penser que j'ai le deuil de... d'autres familles d'avant ou des gens que je n'ai pas accompagnés du tout, mais que pour leur deuil, ils ont besoin de soutien. Donc, le deuil chez les enfants et les adultes, c'est quelque chose, moi, qui comble pas mal mon quotidien. Là. Wow. Donc, en termes de clientèle, que je fais vraiment juste comme je joins la bulle familiale, c'est 1 ou 2 maximum.
Mais mon Dieu, Cynthia, est-ce que ta santé mentale va bien?
Je vais très bien.
Non, mais je me dis, t'es tout le temps entourée. C'est sûr que t'as les naissances à travers ça aussi, ça c'est du beau, mais d'aider dans le deuil, d'aider dans le fin de vie, c'est pas lourd à un moment donné au quotidien?
C'est peut-être que j'arrête pas de dire ça, là, puis je suis peut-être sociopathe. Là. Je niaise quand je dis ça, là, mais pour vrai, ça m'atteint pas d'une façon négative. Baigner dans le milieu des soins pâles puis de la fin de vie, on se rend compte que c'est vraiment plus lumineux qu'on le pense. Y a vraiment quelque chose qui nous ramène à nous, la façon dont on vit notre vie, qui fait que je profite 100% plus de ma vie qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles où j'arrive dans l'auto puis je pleure. Là. C'est pas facile, mais il y a quand même un prendre soin de soi aussi là-dedans qui est vraiment important. Donc, d'avoir ses repères, méditation, la nature, ma famille me rapporte à la vie. T'sais, j'ai 3 enfants, fait que j'arrive chez nous puis j'oublie assez vite que la mort existe là, parce que ça court partout. Fait qu'il y a cette, pour moi, c'est lumineux. La mort, c'est bizarre, mais c'est ça. T'sais? Fait que ça me draine pas, non.
J'ai une bonne question remplie de jugements et de stéréotypes.
Let's go. Ouais.
C'est des femmes qui font appel à toi, c'est pas des hommes virils qui vont t'appeler parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans la mort d'un proche?
C'est leurs femmes qui m'appellent. J'y accompagne beaucoup d'hommes, beaucoup
mais
plus.
Mais c'est pas eux qui font la demande.
Mais c'est pas eux qui m'ont appelé.
OK, j'étais pas loin.
C'est pas loin, puis quand j'arrive dans la maison puis que je me présente, tu sais, l'approche est très différente, puis des fois, ça va prendre une couple de jokes, puis tu sais, on essaye de se mettre au niveau de compréhension du rôle de l'autre aussi, parce que souvent, oui, ceux qui m'ont appelé, ils connaissent, ils sont allés lire, ils savent, mais tu sais, la personne en fin de vie, ils sont comme, bon, un autre intervenant dans la gang qui arrive, tu sais. Mais oui, il y a beaucoup plus de femmes qui font appel à mes services, que ce soit pour eux ou pour un membre de leur famille, effectivement.
Est-ce qu'il y a une demande croissante au niveau de ton domaine avec l'aide médicale à mourir qui est croissante aussi, on va se le dire, là?
Ah oui, ouais, définitivement. Moi, ça fait 5 ans, là, puis t'sais, je peux dire que cette année, là, ça l'a explosé, là, comparé aux années précédentes. Fait que... oui, l'aide médicale à mourir amène le sujet sur la table de 1. Même si ce n'est pas des clients qui vont avoir recours à ça, ça a amené des discussions dans des familles, ça a amené une certaine conscience aussi de « OK, ça, c'est une nouvelle option, mais à cette heure, c'est quoi les autres aussi? » Tu sais, puis de se poser la question « Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui se fait? » Parce qu'on ne sait pas tant qu'on n'est pas rendu là. Fait que ça grandit beaucoup. Et ça, c'est partout au Canada. Là. On le voit dans l'association, il y a des demandes de bon, quelle école je vais me former. Mm-hmm. Les gens ont de plus en plus d'intérêt à faire ça. Reste que pour en vivre à temps plein, ça va quand même prendre encore un petit bout là, avant que ça devienne quelque chose de simple et de rapide. Là. Moi, ça fait 5 ans, comme je disais, puis c'est là que je commence à voir que ça roule. Là,
ça fleurit plus, là.
Oui, exactement. Exactement.
Audrey, là, je vais jouer mon rôle de vilain. Tu as le droit à une dernière question.
Ben,
fait que choisis bien.
Non, mais écoute, elle va être simple, cette question-là. J'ai envie, pour les gens qui veulent te rejoindre, Cynthia, comment on fait? Parce que là, tu as ton entreprise au Pont Couvé. As-tu un site web? As-tu une manière de te rejoindre? Parce que je suis certaine que ça parle à des gens. Là. Écoute, je t'entends ce matin, puis j'ai envie de faire affaire avec toi à un certain point dans ma vie, là.
Pas bientôt, on espère. Là.
En essence, de préférence. Là.
Non, pas tout de suite. C'est ça, pas tout de suite pour la mort. Là. Ça, je le souhaite à personne. Mais effectivement, ben, mon site web, c'est pas mal la façon la plus simple parce qu'il y a toutes mes coordonnées dessus. Donc, c'est www.auponcouvé.com. Et en fait, j'offre les services d'accompagnement en présentiel, mais aussi en visio, surtout pour ce qui a trait au deuil. C'est chez les adultes, en visio, ça se fait très bien. Donc, de partout au Québec, là, c'est possible de me rejoindre.
Hey, Cynthia Brunel, un énorme merci d'avoir pris le temps ce matin. Je suis vraiment contente. Tu étais notre première invitée de ce segment Open Mic. Je ne suis pas déçue, pan à toutes.
Merci vraiment pour votre confiance.
Passe une belle journée.
Bye.
Bonne journée.
Cynthia Brunel, qui est Tana Doula. Si vous venez juste d'arriver en passant, on va mettre ça évidemment sur le blvd.fm puis sur la chaîne YouTube. Il y a des gens qui avaient des questions en plus par texto. J'ai l'impression que c'est le genre d'invité avec qui on va être capable de faire un suivi peut-être éventuellement.
Oui. En passant, Tana Doula, pour ceux qui ont peut-être manqué certaines explications au début, la façon simple de résumer un peu, là, accompagnante de fin de vie pour accompagner des proches ou quoi que ce soit.
Oui, puis l'intérêt grandissant en ce moment, dû à l'aide médicale à mourir. C'est un domaine qui est très, très peu connu. Cynthia fait aussi de la naissance en passant. Elle fait de l'accompagnement de deuil, si jamais, pour les familles. Non, mais l'humain est au cœur de ça. C'est ce que je trouve trippant. Puis ce domaine-là réintègre la notion de vulnérabilité dans une société qui est assez individualiste, on va se le dire. Fait que c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec Cynthia.
Audrey Pinchot, merci beaucoup d'avoir apporté Cynthia comme invitée dans ce segment Open Mic qu'on fait tous les jours à 11h.
Ben là, puis si vous avez des suggestions, des envies de sujets, vous n'hésitez pas au 88-971-102. On se rejase demain.
Vas-tu être là?
Je vais être là.
Demain 11h?
Oui, on jase des amis, pas d'amis demain.
Oui, c'est sorti ce soir. On en reparle. En attendant, t'es dans le retour aussi de 14h à 18h.
Yes, salut.
Dans les prochaines minutes, Pascal CV vient faire son tour dans le Point de Max. Toujours bien accompagné, moi. Le Point de Max. 11h34 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1, le segment l'Open Mic avec Audrey Pinchot qui s'est tenu dans la dernière demi-heure et ça va se retrouver assez rapidement sur le blvd.fm, même que je pense qu'Audrey me fait signe que c'est déjà mis la machine Pinchot. Puis sur YouTube, si vous voulez le visuel, ben ça va être là aussi là, assez prochainement. Par texto, vous pouvez toujours m'écrire s'il y a quoi que ce soit sur les routes. Pour l'instant, ça semble assez bien aller. L'heure de pointe à matin, ça a vraiment pas été facile. L'heure de pointe, d'ailleurs, qui de plus en plus s'étire. C'est le fun l'été quand il n'y en a pas trop de circulation. Puis là, rapidement, ben de jour en jour, puis de semaine en semaine, tu te dis « OK, là, on est revenu à normal ». Puis là, la semaine d'après, tu te rends compte que « Oups, on n'était pas encore revenu à normal ». Mais là, tu penses que tu es à normal, mais la semaine d'après que tu te rends compte que finalement, la vraie normale, ben c'est pire chaque semaine. Puis là, je pense que cette semaine, avec le retour au cégep, université, tout le monde de retour au travail... J'espère que ce ne sera pas pire la semaine prochaine parce qu'on n'aura vraiment pas de fun. Tu sais, quand le trafic pour accéder au pont Pierre-Laporte, même pas d'accident, rien, commence à 6h15, 6h20. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand je suis arrivé à Boulevard et je faisais la circulation, ça commençait plus aux alentours de 7h. Puis là, d'année en année, on voit que le trafic pour l'accès au pont Pierre-Laporte direction nord le matin, ça commence toujours de plus en plus tôt. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous nous écoutez dans ce temps-là. C'est ça, sur les routes, ça va bien. Pour ce qui est de la météo, présentement, c'est un 22 degrés au thermomètre. On ressent 25 avec l'humidex. Méchante belle journée. Méchante belle journée qui, pour l'instant, est belle. Par contre, pour plus tard aujourd'hui, C'est à 30 % de possibilité d'averses et même des orages. Cette nuit, on descend à 12 degrés avec quelques nuages. Demain, ça en est une belle, puis on va en profiter parce qu'après ça, c'est pas un beau week-end. Mais demain, jeudi, donc 26 degrés avec pas mal du soleil avant que la pluie commence à tomber au courant de la nuit. Dans l'actualité, c'est une grosse journée. Dans les prochaines minutes avec Pascal CV, on va revenir sur cette nouvelle qui a pris toute la place aux alentours, peut-être de 8 heures ce matin. La coroner Jeanne Kamel qui a livré son rapport sur par rapport au décès tragique de la fillette de Granby en 2019. Ça avait vraiment touché tout le Québec. On en a parlé beaucoup en ouverture d'émission. Et c'est un dossier qui vaut la peine quand même qu'on en rediscute et on va le faire avec Pascal. En attendant, vous parlez de François Legault qui commence à tranquillement, pas vite, mettre la table pour la présentation de son prochain Conseil des ministres. Tu sais, ça fait longtemps qu'on parle de remaniement ministériel, puis on le sait que ça s'en vient. Là, avec le témoignage de François Legault du côté de la commission Galant hier, on se doutait bien que le remaniement ministériel, finalement, allait pas arriver aujourd'hui ou demain. Et là, ben, ce matin, devant les journalistes, en passant, vite, François Legault a laissé tomber que ça s'en venait, puis que tranquillement, pas vite, ben, on allait être mis au courant de ce qui allait se passer dans ce remaniement ministériel-là. Faut dire qu'en fin de semaine, c'est la presse qui nous est arrivée avec certains échos. Est-ce que ça va se concrétiser? C'est une bonne question. Geneviève Guilbeault, notamment, qui perdrait son poste de vice-première ministre et qui perdrait aussi son poste de ministre des Transports. Par contre, Geneviève Guilbeault, qui demeurerait au sein du Conseil des ministres, ça, c'est pas quelque chose qui me surprend. Je m'attendais à voir Geneviève Guilbeault rester au sein du Conseil des ministres. Je parle beaucoup du tourisme et de la culture pour Geneviève Guilbeault. Évidemment, pas les deux, mais un des deux, je serais pas surpris. C'est Sonia Lebel qui remplacerait Mme Guilbeault comme vice-première ministre. C'est une candidature qui fait beaucoup de sens. Je ne m'attendais pas à voir un homme venir remplacer Geneviève Guilbeault à ce poste-là. Et quand tu regardais les femmes influentes au sein de la CAQ, je pense que la candidature de Sonia Lebel devenait celle qui était la plus logique. Maintenant, on se pose des questions sur François Bonnardel. Est-ce que lui sera l'agneau sacrifié par François Legault? Comme je vous dis, si Geneviève Guilbeault reste au sein du Conseil des ministres, ben, à un moment donné, t'as deux options, en fait. Soit tu décides de vraiment dire, OK, on prend le François Bonnardel, puis c'est de sa faute, là, ça a clique, puis c'est lui qui prend la porte, puis qui sort du Conseil des ministres. Soit tu te dis, bon, ben François, c'est pas si pire ce qu'il a fait non plus, puis si Geneviève reste dans le Conseil des ministres, ben François Bonnardel peut rester aussi. Et bref, dans tous les cas, quand on regarde les sondages actuellement au Québec, on voit que la coalition Avenir Québec, c'est un... De zéro, je pense que c'est 0 à 3 députés qu'on projette pour les prochaines élections qui s'en viennent dans un an et des poussières. Je sais qu'il y en a là, qui demandent qu'on parte tout de suite en élection. On s'entend que la CAQ ne fera pas ça avec la situation actuelle. On est encore très majoritaire du côté de l'Assemblée nationale. Puis c'est pas compliqué, si on déclenche des élections, ben là, on déclenche automatiquement notre mort un an d'avance. C'est le Parti québécois qui trône toujours dans les sondages. Ça va bien pour le PQ. On a gagné 3 élections partielles de suite. La plus récente étant dans le coin de Victoriaville, là, dans Arthabasca. Donc, on va continuer de suivre tout ça. Pendant ce temps-là, dans la politique municipale, il y a une nouvelle qui est tombée aussi dans les dernières heures. Une nouvelle candidature, un nom connu pour Leadership Québec, l'équipe de Sam Ahmad. C'est Hugo Langlois. Hugo Langlois qui s'était présenté, lui, pour le Parti conservateur du Canada aux dernières élections fédéral. Ce matin, on s'est un peu posé la question, est-ce que c'est Hugo Langlois qui a besoin de la politique ou la politique qui a besoin d'Hugo Langlois? On vous laisse déterminer la réponse qui vous plaît à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, c'est une annonce qui doit être confirmée cet après-midi. Hugo Langlois qui se présentera dans le district de Vanier-du-Berger avec Leadership Québec, l'équipe de Sam Ahmad. C'est le Soleil donc qui a pris ça en exclusivité dans les dernières heures. Puis c'est pas une surprise pour personne dans le sens où On savait qu'Hugo Langlois regardait du coin de l'œil ce qui se passait en politique municipale, puis même qu'il avait discuté avec Bruno Marchand. Là, après ça, je pense que Bruno Marchand était comme pas content que ça sorte. Ça avait été... En fait, Bruno Marchand l'avait carrément garoché en bas de l'autobus, puis on avait vite vu que s'il se présentait Hugo Langlois en politique municipale, ben ça ne serait pas avec Bruno Marchand. Ce serait fort probablement avec Sam Hamad et Leadership Québec, et c'est ce qui va se confirmer dans les prochaines heures. Sinon, pour ce qui est du plan politique fédéral, rapidement, le premier ministre Mark Carney qui réunit son cabinet dans la région de Toronto, on veut élaborer le plan d'action pour l'automne. Pierre Poilievre qui sera de retour à la Chambre des communes. On n'a pas encore réglé la guerre commerciale avec les États-Unis. Des discussions donc qui doivent porter sur comment on va soutenir les industries qui sont frappées par les tarifs de Trump. On veut parler logement abordable, les grands projets d'infrastructure. On sait que c'est important, ça aussi au cœur de Mark Carney. L'augmentation des dépenses de défense, la lutte contre la criminalité, c'est vraiment différents dossiers qu'on va aborder du côté de la rencontre du cabinet Carney. CBC qui nous mentionnait, puis ça c'est intéressant en tabarouette, que certains députés libéraux commencent à exprimer une certaine frustration face à une communication qu'on juge trop centralisée. On craint de perdre l'appui des électeurs de gauche. Ça pourrait profiter au NPD pour l'instant. Tu dis NPD, ça bouge pas fort, là. Là, on disait hier qu'on lançait la course à la chefferie, puis que là, c'était donc bien beau, puis qu'il y avait donc bien de l'intérêt pour la course à la chefferie du NPD. Je sais pas si vous avez vu beaucoup cet intérêt-là par rapport à la course à la chefferie du NPD. Personnellement, depuis que j'ai vu passer le communiqué hier, je cherche cet intérêt et je n'en trouve pas vraiment. De l'intérêt, depuis à peu près 8 heures ce matin, il y en a beaucoup pour ce dossier-là. La coroner Jeanne Kamel, qui dans un rapport de 26 pages revient sur la mort atroce, tragique de la fillette de Granby en 2019. On déplore les graves lacunes du système de protection de la jeunesse. On déplore un fonctionnement en silo pour bien du monde qui sont intervenus dans cette situation-là. Et on en parle avec l'ami Pascal CV qui est avec moi en studio.
Salut Maxime.
Comment tu vas?
Ça va très bien. C'est un dossier qui me rappelle énormément de choses, entre autres à Québec. T'étais pas encore à la radio, je crois, mais il y avait eu une jeune fille qui avait été retrouvée dans une benne à ordures. On se demandait comment est-ce qu'on a pu se rendre là, et ça avait choqué. Puis quelques temps après, c'était arrivé ça dans l'actualité pour la fillette de Granby. À la suite du décès de cette fillette-là, le 30 mai 2019, on instaurait et on instituait la commission Régine Laurent, donc la commission Laurent. Ça a été assez spécial. D'une commission, vous savez c'est quoi, on est là-dedans avec la commission Galant. Puis ça avait pris énormément de place au Québec. C'était pour avoir une réflexion sur tout azimut, en fait, sur la protection de la jeunesse, donc la DPJ. Et ça nous ramène aux recommandations qui avaient été faites par Mme Laurent. Ce matin, quand on voit le dossier revenir, on se dit, bon, parfait, la commission a été faite après le décès de cette jeune fille-là. On ne pouvait pas nécessairement changer les choses, malheureusement, de cette tragédie-là. Mais ça m'a ramené à plusieurs prises de parole que Mme Laurent avait faites et qui avaient tremblé, un, au niveau de la DPJ, aussi le gouvernement de la CAQ, mais je me demande à ce jour, en 2025, on en est où avec ça? Est-ce qu'il y a réellement des choses qui ont changé? Je te ramène avec sa prise de parole dans le podcast de M. Legault. Tu sais, quand François Legault avait décidé de de faire un fameux podcast, bien, une de ses principales invitées, c'était Mme Laurent. Je vais m'occuper des clips, Maxime, parce qu'il y a un petit problème sur ton ordinateur, donc j'ai trouvé une solution. Mais parler entre autres de la formation des gens qui travaillent à la DPJ. Est-ce qu'ils sont assez formés? Est-ce qu'on les envoie sur le terrain avec une efficacité totale? Je vous laisse entendre ce que Mme Laurent disait à ce moment-là à François Legault.
J'ai étudié, mais j'ai eu une heure sur la loi sur la DPJ. Alors, elles se sentent démunies. Et c'est une loi qui est très, très intrusive. Ouais. Alors, elles se découragent. Puis là, elles quittent la DPJ, puis elles s'en vont ailleurs dans l'établissement.
Là, on parle des intervenants qui, à l'interne, n'ont pas les ressources, n'ont pas les effectifs, surtout les connaissances, au moment où ils entrent sur le terrain. Puis ça, là, 88-971-1021, il y en a plusieurs qui rapportent de façon récurrente, qui sont envoyés à 21, 22, 23 ans, sortant des études, directement sur le terrain, en train de gérer d'énormes dossiers. On parle de maltraitance d'enfants, d'adultes qui veulent pour beaucoup garder cette garde-là de leurs petits, mais qui ne sont pas nécessairement les plus ferrés pour le faire ou les plus outillés. Donc, souvent, ça vient avec, dans certains cas, de la violence, des gens qui sont rébarbatifs par rapport à ça. Tu as 21, 22, 23 ans, Max, tu rentres sur le milieu du travail, puis tu n'as pas assez de formation et d'expérience, sauf qu'on est tellement pénurie de main-d'œuvre qu'on t'envoie quand même.
Puis, ce qui est poche un peu dans ce dont on parle, c'est que là, ce matin, on a le rapport par rapport à la fillette de Granby. Puis là, on vient des années et des années et des années en arrière sur un autre rapport qui a eu des recommandations. Puis j'ai l'impression qu'il y a bien des recommandations qu'on va pouvoir mettre une à côté de l'autre là, à des années de différence. Mm-hmm. Puis à au moins le décès de la fillette de Granby de plus. Puis dire, ouais, ça se ressemble pas mal à la recommandation qui a été faite à matin c'est par vrai. Rapport à telle recommandation. Puis ça, ce qui est triste là-dedans, c'est que le monde est cynique. J'en parlais en ouverture de show, là. Puis ça, ouais, du blabla politique, des recommandations. Puis ça aide pas le cynisme par rapport à la politique.
Puis là, on parle d'enfants, on parle de choses humaines. La SAQ clique, ça fait vraiment suer les gens, c'est dans le portefeuille, mais là, on est dans des rapports humains. Puis Jeanne Kamel, dont on parle ce matin, entre autres dans les articles, c'est elle aussi qui avait géré le cas de la jeune fille à Québec qui était décédée dans le coin de Charlebourg, qui avait été retrouvée dans Ben Ardure. C'en est une qui, comme coroner, prend ça clairement au sérieux, la situation. Régine Laurent continue en parlant de tout ce qui est anonyme. Au sein de la DPJ, t'as pas le droit, t'as un devoir professionnel de garder le silence sur bien des choses. Fait que ça rend un peu la transparence plus compliquée. On écoute Mme Laurent là-dessus.
L'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour sous le couvert de la confidentialité. Moi, ça m'enrage. Comment ça se fait qu'une enseignante n'était pas au courant qu'un enfant avait appris la veille qu'il allait changer de famille d'accueil. Fait qu'il arrive à l'école, il est tannant comme... Mais là, il est puni. Fait qu'il est doublement puni. Mais si on avait averti l'enseignante ou le psycho-éducateur, cet enfant-là, ça se peut qu'il n'aille pas bien ces prochains jours, il va changer de famille d'accueil. C'est une confidentialité bienveillante pour l'enfant.
Les enseignants sont pas au courant parce qu'il y a un devoir de confidentialité. T'es pas capable d'intervenir en conséquence. Rappelle-toi, il y a un des enseignants ici qui collabore avec nous, qui parlait d'une situation comme telle puis qui s'est rendu compte finalement qu'il avait été extrêmement sévère avec un enfant qui venait de vivre une violence extrême dans la nuit avec ses parents. Son père qui s'en était attaqué à sa mère devant lui. Sa mère partie à l'hôpital. L'enfant complètement turbulent le lendemain. L'enseignant l'a sorti. Quand il a appris ce qui se passait, c'était des jours plus tard. On n'a pas été capable d'être proactif envers l'enfant. Puis a été doublement puni, c'est un peu ce qu'elle dit. Mais ça, c'est des situations quotidiennes là, qui se passent là, par le devoir de discrétion qui est peut-être un petit peu trop intense.
Et encore, si on fait le lien avec aujourd'hui, avec le rapport de la coroner qui dit « Tout le monde travaille en silo, ça se parle pas ».
On va finir avec une autre clip, Max. C'est, je pense, la chose qu'on reproche au gouvernement de la CAQ depuis le dernier mandat au minimum dans tous les paliers gouvernementaux, dans tous les ministères, et c'est de ne pas aller parler aux gens sur le terrain. Les meilleures personnes pour parler d'un dossier, c'est ceux qui ont les deux pieds dedans, les deux mains dedans. Et là, on retourne il y a quelques années avec cette recommandation-là de Régine Laurent, qui est aussi une des recommandations que toutes les personnes qui passent par la DPJ ou dans un dossier qui est interrelié à la DPJ clament haut et fort.
Et là, la chose de base que je me permettrais de vous dire avec beaucoup de respect, parler aux monde qui sont sur le plancher. C'est ce qui a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup au cours des réformes, c'est que ça s'est éloigné du monde qui sont sur le plancher. Elles en ont des solutions. C'est du monde de cœur. C'est du monde capable de faire des compromis. Alors, je dirais quasiment par unité de soins qu'il faut regarder comment on peut réorganiser les corps de travail. Et il faut qu'en contrepartie, que les employeurs respectent leurs paroles. Si on
arrête de parler à ces gens-là et si on ne fait pas ce devoir-là, on n'avance pas. Puis dans le cynisme que tu évoques, est-ce qu'on peut poser la question aux gens? Il n'est pas alimenté par ça aussi, par le fait qu'il n'y ait pas d'écoute quant à ceux qui travaillent réellement là-dedans.
Un peu plus tôt ce matin dans le show, je parlais avec Marc Allard, qui est journaliste d'enquête au Soleil. Puis on se parlait d'un rapport de coroner justement qui est sorti sur l'histoire d'un homme de, je pense que c'est 88 ans exactement, qui est mort après être resté des heures sur le plancher de sa chambre. C'est 2h30 qu'il a attendu une ambulance. Puis là, il y a un rapport de coroner, puis là, il y a des recommandations. Puis cette histoire-là, on l'a déjà vue, là. ambulance qui arrive pas, que c'est long. Il y a, puis là, bon, OK, on va enquêter. Puis là, OK, on va faire un rapport. Puis là, OK, on va avoir des recommandations. Puis il y a des textos qui rentraient en disant, ah, oh, ben telle histoire en telle année à Québec. Il y avait eu rapport, puis là, ça disait plus d'heures d'ambulance. Il n'y a pas plus d'heures d'ambulance. Puis il y en a qui disaient que oui, ils en ont ajouté un peu, mais concrètement, ça ne change rien. Mais là, l'histoire se répète. Puis là, on voit que dans ce cas-là, avec les propos de Mme Laurent qu'on entendait, puis là, on va écouter un peu plus tard. Je sais que dans votre show, on en jase. Jeff va avoir des extraits de Mme Kamel aussi.
On là, mélange qui... en fait ces extraits-là de Mme Laurent avec ceux de Mme Kamel.
Alors, on va être encore plus être en mesure de constater que, ouais, les années ont avancé et là, on a un autre cas, on a un décès tragique, puis on aurait pu prévenir ça en appliquant dans le temps les recommandations. Que... Puis tu sais, ce qui est tragique là-dedans aussi, c'est que là, aujourd'hui, c'est la une. Il y a beaucoup de grosses nouvelles ces temps-ci, fait que, bon, j'espère qu'on va quand même pas l'oublier puis qu'on va en parler en masse, là. Mais c'est tellement gros.
Il ne faut pas mettre ça de côté par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité. Je me souviens, on ramène ça beaucoup ces temps-ci, là, je me souviens la plaque d'immatriculation, mais le pourquoi qu'on parle de ces extraits-là, qu'on ramène Mme Laurent d'Anjoute ensemble aujourd'hui dans le Point de Max, c'est justement pour démontrer, puis je pense que ça, c'est le travail qu'on a à faire en tant que média, démontrer qu'il n'y a rien qu'à avancer, qu'on on frappe encore les mêmes murs malgré des gens qui prennent le temps et l'argent des contribuables pour faire des enquêtes complètes là-dessus ou des recommandations ou encore mettre la lumière. Puis à terme de réflexion personnelle, Max, là-dessus, tu sais, la hiérarchie là, dans les ministères, là, je comprends qu'au-dessus de certaines personnes qui travaillent sur le plancher, tu as des gestionnaires.
C'est normal.
Mais la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que leur job de gestionnaire, c'est de qualifier que leurs tâches sont plus importantes et leur façon de voir les choses et leur prise de décision est plus importante, légitime et professionnelle que celles qui sont en dessous, des gens qui sont en dessous d'eux? Moi, j'ai l'impression que c'est plus un travail de main ensemble. Le gestionnaire fait arriver les affaires, mais de ce qu'il entend du terrain. Et ça, c'est négligé au Québec.
Exactement. On vous écoute donc ce midi, Jeff Fortin, toi dans On en jase le midi, il y a Antonine Iacarini qui va être là pour le caucus Iacarini aussi, ça c'est à midi pile. Puis aujourd'hui, c'est qui est avec vous? On est mercredi, donc
Lambert
c'est
Drainville
Lambert
Drainville
qui va être là. Lambert Drainville, donc on vous écoute dans quelques minutes à peine. Ceci étant dit, c'est déjà la fin du Point de Max. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette deuxième émission. On va se retrouver demain 10 heures pile pour la prochaine édition du Point de Max. Avant ça, évidemment, que je serai aussi dans Marceau le matin avec Marceau puis Jeff. À 11 heures, c'est le segment Open Mic dans le Point de Max. Et dans les dans 2 heures, il y a aussi Gravel dans le retour, évidemment, qui vient s'installer comme à chaque jour, 14 heures jusqu'à 18 heures avant Marceau le soir des 18h. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps en attendant qu'il y ait peut-être de la pluie puis des orages. Mais pour l'instant, je regarde par la fenêtre puis c'est très beau. Fait qu'on va en profiter. Il fait chaud, il fait beau. Puis n'oubliez pas non plus de profiter de la journée de demain parce qu'en fin de semaine, ça va être pas mal de la pluie. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous dis un gros ciao, bye!